Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour ce nouveau Radio Pléiade. Donc, on en est déjà au 25e épisode. Que le temps passe. Donc, voilà, nous sommes le lundi 29 novembre 2021 et nous sommes toujours prisonniers de la Matrice. Justement, on va en reparler. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous ce soir donc une artiste. Mais qui voilà qui va échanger avec nous donc sous le pseudonyme de Synchronicité puisque sa vie est jalonnée de synchronicité. Bonsoir, Synchronicité.
Bonsoir.
Ça va?
Ça va très bien, merci.
Alors en fait là, comme je vous dis hein, d'une semaine sur l'autre les émissions comment dire se génèrent de façon un petit peu par synchronicité justement. Et là, en fait, on a eu un échange. Synchronicité est venue vers moi pour me poser des questions par rapport à des émissions précédentes. Et puis, je trouvais que ces questions, elles étaient intéressantes. Et plutôt que de faire une réponse en privé, je me suis dit, tiens, mais pourquoi tu viendrais pas avec nous, là, sur Radio Pléiade, pour poser des questions, pour que tout le monde puisse profiter, à la fois de tes questions et des réponses. Voilà, c'est ça la genèse.
Tout à fait.
Voilà, donc bienvenue. Bienvenue. Alors, on va donc nous sommes 67 participants. Donc, allez-y, venez, venez. Nous n'avons pas encore tout à fait démarré. On va commencer par quelques petites annonces. Quelques petites annonces. Vous le savez, hein, vous en avez l'habitude. Alors, bon, déjà, un grand merci encore hein, pour vos dons donc sur le Tipeee Hervé Gaillard. Alors bon voilà et pour justement pour l'opération à micro pour Cindy. Donc Cindy a commandé son micro mais ne l'a pas encore reçu. En tout cas grâce à vous elle va avoir un super micro. Donc merci à vous et puis comme on a du bonus on va même en profiter pour équiper Sandrine qui est à la pauvre depuis des mois travaille à l'animation des méditations avec juste son smartphone. On s'est dit que ce serait quand même bien de passer à la vitesse supérieure donc on va l'aider à s'équiper aussi. Donc merci à vous pour vos dons. Et alors sinon, donc moi j'ai des petites annonces là pour les opérations Pierre de Sintamani, hein, vous le savez. Allons-y. Donc ce n'est pas un message codé hein, de la résistance de Radio Londres, mais je recherche un volontaire qui pourrait se rendre sur le parc national des Écrins, hein, ainsi que vo un volontaire qui pourrait se rendre dans la vallée de la Maurienne. Je recherche également un volontaire pour l'île de Jersey. Et si vous êtes à l'étranger, je dirais oui, à l'étranger, d'une façon générale, on recherche aussi des volontaires. Alors, c'est vrai que c'est plus intéressant, par exemple, sur l'Afrique, parce que sur l'Afrique, il y a beaucoup de travail à faire encore. Mais pour quelques pays d'Europe, ça peut avoir un intérêt. Sur l'Asie, je vais pas m'en occuper. À l'heure actuelle, et puis pour les Amériques non plus. Si jamais ça change, je vous le dirai. Voilà. Donc ben voilà, si vous êtes éventuellement intéressé pour nous aider pour enterrer des pierres magiques, eh ben contactez-moi par message privé. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième petite annonce. En fait, je ne sais pas si vous avez vu passer. Bon, il y a eu un petit peu comment dire, un embrouillamini là sur l'annonce des méditations booster et puis de la grande méditation donc du 21 décembre. Donc on va en reparler aussi. Ça fait partie des questions de synchronicité. De synchronicité, qui est notre invité? C'est un nom commun, mais c'est aussi le nom de notre invité. Ceci étant, donc la méditation booster du 4 décembre est bien maintenue. Donc allez consulter les sites Prepare for Change en français, Révolution Vibratoire, Exoportail, etc., qui relayent justement ces méditations mondiales et les méditations préalables, parce que la méditation booster, en fait, c'est une méditation préalable pour préparer justement, essayer de garantir la masse critique pour le 21 décembre. Donc sachez qu'elle a bien lieu, donc on vous invite à participer. Cindy, peut-être deux mots là-dessus. Je crois pas que le support de méditation en soi est paru en vidéo. On a des vidéos promotionnelles.
Pour l'instant, on a
Vas-y.
les vidéos promotionnelles, on a l'audio guide, mais uniquement en anglais, si je ne me trompe pas. Mais de toute façon, les articles sur le site français Prepare for Change et French Wheel of Mass Meditation seront mis à jour au fur et à mesure que les vidéos seront créées pour le 4 décembre 2021. On a surtout des vidéos promotionnelles et les liens valides pour la pétition du contacter Cobra, car même si elle est mise hors ligne, on a des websites de secours.
Oui, elle est mise en ligne, elle est mise hors ligne. Enfin, ça, elle fait des allées-venues. Donc, effectivement, ce qui laisse quand même supposer qu'elle dérange, effectivement, cette pétition. Alors, sachez que dans la méditation booster aussi, vous avez une mention qui est faite du chakra de l'étoile. Donc, juste une petite explication très, très rapide. On avait déjà utilisé ça en décembre de l'année dernière pour des méditations booster. En fait, le chakra de l'étoile, en fait, c'est le chakra qui est situé au-dessus du coronal. Donc, c'est notre huitième chakra. Et c'est un chakra, en fait, qui nous relie à la conscience planétaire. Et donc, pourquoi, justement, on utilise dans les méditations booster ce chakra étoile de l'âme? C'est justement pour éclairer la conscience planétaire et pour communiquer justement aux différentes âmes à la surface de la planète de l'importance de cette méditation du 21 décembre. Donc voilà, ça nous permet de quelque part clamer dans la conscience planétaire ce qui va se passer justement et cet appel à atteindre la masse critique le 21 décembre. Et je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais le contact Ecobra, on en reparlera sans doute ce soir aussi, il a fait un appel à certains justement leaders d'opinion importants dans le domaine OVNI, donc comme Michael Salah et le docteur Stephen Greer, pour qu'ils signent cette pétition, pour que ceci justement ait quelque part renforcé l'impact. C'est un appel une nouvelle fois à l'unité au niveau des différentes communautés qui peuvent exister, entre la communauté spirituelle, communauté OVNI, etc. Bon, je serais curieux de savoir s'il obtiendra gain de cause, mais c'est vrai qu'il suffirait que un ou deux de ces leaders d'opinion s'affichent aussi, même par rapport à cette méditation, pour que nous atteignions sans difficulté la masse critique. Mais voilà, on sait d'expérience que ça reste assez compliqué justement d'unir les différents leaders d'opinion, les différents lanceurs d'alerte ou influenceurs. Voilà. Moi, c'est tout pour les annonces. Ah non, si, la dernière, c'est qu'on a donc la session de dissolution des implants en anglais ce mercredi soir, pour ceux qui le souhaitent. Et bah, synchronicité, tu peux essayer si tu n'as jamais essayé, puisque je crois que tu parles très très bien l'anglais. As-tu déjà essayé les sessions de dissolution d'implants?
Et non, pas encore. Et justement, je me disais qu'il... Bah, voilà, c'est une des questions que j'ai pour ce soir, pour toi et pour les auditeurs. Voilà.
D'accord, très bien. Bah, en tout cas, voilà, si tu n'as pas essayé, moi, parce que en fait, il y a une phrase de la sagesse soufie. Donc le soufisme, hein, c'est l'ésotérisme, musulman, qui dit que justement, en fait, Dieu ne se démontre pas, mais il se goûte. Et si tu veux goûter justement à l'énergie spirituelle, et que va te procurer justement ce travail, eh ben, il faut faire une séance de dissolution des implants, parce que tu pourras difficilement avoir la conviction de l'existence de ces implants si tu ne tentes pas toi-même de les dissoudre. C'est seulement si on tente de les dissoudre que justement on appréhende finalement leur existence, parce que leur existence sur le plan matériel est indémontrable. On parle d'implants immatériels, hein, évidemment, on parle pas d'implants physiques comme on peut avoir avec les ovnis, avec les abductés, etc. Mais voilà. Donc voilà, tu es la bienvenue, c'est en anglais ce mercredi, et si tu veux essayer. On va démarrer. Donc nous sommes 92 participants, donc bienvenue à tous sur ce 25e épisode de Radio Pléiade. Donc nous sommes avec Synchronicité. Donc tu vas te présenter. Donc je t'ai présenté comme une artiste. Bon, tu souhaites garder quand même un certain anonymat, ce qu'on comprend tout à fait. Mais présente-toi comme tu souhaites te présenter, tout simplement.
Bah écoutez, déjà merci de me recevoir tous. Merci Hervé d'avoir répondu à mes questions suite à ta dernière émission que j'avais écoutée. Et en fait, ça fait... je ne sais pas par où commencer. En fait, soit je vous raconte un petit peu ma vie d'artiste, soit je vous raconte un petit peu ma vie spirituelle. Je crois que je vais vous raconter un peu les deux. Alors, je suis quelqu'un qui a un très grand don vocal, on va dire ça comme ça. Je pense que si là-haut, ils n'avaient pas voulu que je fasse ça, je ne sais pas pourquoi ils m'auraient pourvu d'une voix comme ça. Donc, ce n'est pas de l'ego surdimensionné, c'est juste que j'ai vraiment une voix unique et reconnaissable entre toutes. Donc voilà, cette voix, je l'ai découverte quand j'avais 11 ans dans une chorale. Et puis, bah, je suis devenue chanteuse par la suite. Et puis, alors en termes de spiritualité, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie qui m'ont menée sur cette voie-là. Bah, tout d'abord, j'ai commencé par le spiritisme. Alors ça, c'était quand j'étais très très jeune, même un peu trop jeune pour ce genre de choses d'ailleurs. J'avais 10 ans et j'ai commencé à faire tourner les tables avec mes cousines, avec une pote aussi qui était un peu là-dedans. Et là, on m'a annoncé des trucs assez horribles, genre que mon frère allait mourir. Et effectivement, ça s'est passé 4 ans plus tard. Et donc, ça m'a laissé un peu quoi. Et j'ai plus jamais touché à ce truc-là. Et puis, ma mère est morte dans la foulée l'année d'après. Et là, j'ai complètement arrêté de croire à la spiritualité, à quoi que ce soit. Je me suis dit, c'est pas possible, s'il y a un dieu là-haut, c'est pas possible qu'il m'enlève ma mère à 15 ans. Donc, j'ai complètement coupé tout. Pendant très longtemps, on va dire jusqu'à l'âge de 34 ans. Et à 34 ans, et j'ai eu ce que j'appelle une épiphanie spirituelle, parce que ben, tout simplement, j'ai eu ma cousine qui est partie faire le tour du monde et qui est revenue en me disant « Mais c'est pas le tour du monde, le truc le plus génial que j'ai fait l'année dernière, c'est Vipassana. » Et je ne savais pas ce que c'était que Vipassana, donc elle m'explique, c'est de la méditation. Tu restes 10 jours à te lever à 4h30 du matin, dans le silence, et à méditer pendant 10 heures par jour. Et à chaque fois que j'allais dans un pays, les gens me parlaient de Vipassana, donc j'ai fini par le faire en France quand je suis rentrée. Et c'était ça l'expérience la plus folle que j'ai faite, pas le tour du monde. Donc là, ma cousine est quelqu'un que j'aime énormément, et je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'elle me parle de ça. Et donc j'ai décidé de m'inscrire. Il fallait un peu de temps pour pouvoir y aller, donc j'ai fait ça 4 mois plus tard. Et puis tout en même temps, mon épiphanie spirituelle a été concomitante avec mon épiphanie écologique, on va dire. Et en fait, j'ai vu le 1er décembre 2014 un article sur le zéro déchet et je suis plus jamais revenue en arrière. Et je me suis dit, on fait trop de mal à la Terre et il est temps que je m'y mette. Donc, j'ai complètement changé mon mode de vie en l'espace d'un an et je me suis mise au zéro déchet. Je vivais dans un appartement à Paris, sans extérieur ni quoi que ce soit. J'ai senti que j'étouffais et je me suis mise à chercher une maison avec un verger. Et ce qui était très drôle, c'est que lors de ce Vipassana, j'avais une phobie des vers de terre. Et tout d'un coup, on vous apprend à être équanime. Et équanime, pour ceux qui ne savent pas, bon, j'imagine que vous savez, mais moi je vous le dis quand même, c'est être neutre finalement face aux émotions. Donc, je me retrouve face à ma peur, parce qu'on était en février, il y avait des vers partout. Je me retrouve face à cette peur que je n'ai jamais identifiée, je n'ai jamais su pourquoi j'avais cette peur bleue. Et puis je me dis, bon, bah allez, je vais être équanime, je vais me rapprocher des limaces et des vers qui traînent par terre. Et puis à la fin du séjour, en fait, c'était un by-product de la méditation, c'est que j'ai été guérie. Et j'aurais jamais pu aller vivre en campagne ou quoi si j'avais pas été guérie, avoir ne serait-ce qu'un compost, si j'avais pas été guérie de ça. Donc ça a été. Ce premier Vipassana a été assez fou. Et puis, j'ai un prof de piano qui est chaman, et je ne le savais pas à ce moment-là. Et il me dit, ah, mais tu vas faire Vipassana, mais moi, je suis chaman. Donc là, je rentre dans le chamanisme de plein pied. Et je découvre cette cosmogonie, et je me dis, mais c'est fou. En fait, ça me parle complètement. Ça me parle beaucoup plus que n'importe quelle religion que dont j'ai jamais entendu parler. Et je me sens très très proche de ce truc-là, donc je vais faire un stage de chamanisme. Et là, je ne vois rien en fait. J'ai des flashs, je vois que mon animal de pouvoir est un dragon, ce qui me semble bizarre, je suis la seule du groupe à avoir un animal chimérique comme animal de pouvoir. Et puis, je suis assez frustrée parce que je vois pas grand chose. Mais par contre, pendant ce stage, je vois des étoiles bouger en compagnie du chaman et il me dit, moi aussi je les vois bouger. Ma meilleure amie était là aussi, elle me dit, moi aussi je les vois bouger. On voit 3 étoiles bouger. Et c'était hyper étonnant, quoi. Et il me dit, je peux peut-être le citer, Laurent Hugueli, qui a beaucoup écrit sur l'Amazonie, etc., qui est chaman. Il me dit, écoute, je sais que je dois écrire un livre canalisé sur les extraterrestres. Il me dit ça comme ça. Mais le monde n'est pas prêt pour ça, pour le moment. Donc bon, je n'en sais pas plus à cette époque-là. Je ne m'intéresse pas encore aux ovnis, à tout ça. Même si, quand j'étais petite, je crois en avoir vu un. Même deux. En fait, le même, mais le matin et le soir, qui faisait un trajet inverse. donc voilà. Et j'étais restée avec ce truc-là. Bon, ok. Mon premier contact avec ça. Et puis j'explore plein de trucs. J'explore le jeûne. J'explore plein de pratiques, donc la méditation. Je rencontre une kinésiologue qui me guérit de plein de trucs. Et puis à un moment donné, je tombe sur. C'est pour ça que je parle aussi de l'écologie. Je tombe sur un livre. Je savais pas du tout jardiner. Hein, j'ai acheté une maison avec un verger pour si jamais j'avais pas la main verte, avoir des fruits. Et du coup, je vois un livre qui s'appelle Les Jardins de Perelandra. Et où on m'explique le test kinésiologique. Et le test kinésiologique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme avoir des baguettes de sorcier, sauf qu'on fait ça avec son corps, on prend ses doigts, et on demande aux esprits de la nature comment jardiner. Donc, j'apprends ce test kinésiologique. Dans le livre, elle dit qu'il faut à peu près 6 mois pour maîtriser les réponses et être sûr que ce n'est pas nous qui influençons les réponses. Et je demande effectivement aux esprits de la nature quoi planter. Je passe un temps fou avec ça et j'arrive à avoir plein de légumes. Alors pas tout n'a pas absolument poussé parce que j'ai pas forcément pu tout faire, mais je suis hallucinée par les résultats que j'obtiens alors que je n'ai jamais rien planté. Je ne sais absolument pas faire un jardin. Enfin voilà quoi. Donc là, j'expérimente ma première connexion, on va dire, à quelque chose d'autre. Et je réalise pas trop à ce moment-là qu'en fait je peux aussi me connecter à plus haut et à d'autres énergies. Voilà. Et puis je lis comme une tarée des tonnes de livres sur la spiritualité. Et puis je rencontre, comme vous le savez, quand on exhale une certaine saveur, puisque tu parlais de saveur tout à l'heure. On rencontre des gens qui ont un peu la même saveur. Donc, je rencontre de plus en plus de gens dans la spiritualité et même je me rends compte que mes meilleurs amis sont là-dedans alors qu'on n'en avait jamais parlé. Ce qui était quand même fou, quoi. C'était comme un sujet tabou et tout d'un coup, je me rends compte qu'en fait, les gens qui sont avec moi depuis des années sont là-dedans et ma copine mexicaine, elle connaît le chamanisme à fond. Mon autre meilleure amie qui est chanteuse, elle est passeuse d'âme. Enfin bref, je me rends compte que waouh, en fait les gens autour de moi sont ultra connectés. Voilà, voilà. Et si je suis trop longue, vous me dites. Hein.
disons que on était juste dans les présentations. Donc voilà. Après, voilà, je sais que tu as beaucoup de questions à poser, donc tu auras moins de réponses si tu poses moins de questions, alors, logiquement.
Je vais juste dire comment je suis arrivée à toi. Donc, dans ce cheminement spirituel, cet été, après tout ce qui s'est passé, les confinements et compagnie, je suis rentrée dans un groupe de résistants non vaccinés cet été. Et puis, l'une des résistantes a posté un lien vers l'un de tes posts. Et donc, je suis allée curieuse, et ça parlait à l'époque. Alors, vous étiez réunis à la Concorde, oui, je ne sais pas quoi, vous essayez de faire un truc sur l'obélisque. D'ailleurs, je suis passée cette semaine-là le vendredi, et vous n'y étiez pas. Alors, je me suis dit, mais c'est des conneries, ou quoi, ou qu'est-ce? Est-ce qu'ils sont déjà partis? Est-ce qu'ils se sont fait dégager? Est-ce que ça n'a pas eu lieu, finalement? Je ne savais pas. Donc, tu peux peut-être me le dire. D'ailleurs, cette méditation que vous aviez faite sur place, ce sitting, ça a eu lieu ou pas?
Je pense que tu dois faire référence aux rencontres sororité, enfin les groupes sororité de Paris, non? Je pense que c'est ça dont il est question. Parce que moi, j'étais pas à l'origine de ça. Hein,
j'étais pas à l'origine de ça, d'accord.
Non.
Ok. Et donc, c'est le premier, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Cobra, en fait. Et, et des chambres à tachyons et de tout ça. Et puis, ben, j'ai suivi un petit peu, ben, beaucoup plus récemment, le reste de tes émissions. Et alors, toujours avec beaucoup de... Ben, je fais attention quand même à tout ça, parce que moi, j'ai découvert cette théorie. Je ne sais pas si on peut appeler ça une théorie ou une réalité. Enfin, vous le vivez en tant que réalité. Moi, pour l'instant, c'est encore une théorie. Voilà, j'ai découvert un petit peu tout ce qui se disait, et notamment la toute dernière, comment t'appelles ça, une mise à jour planétaire, c'est ça?
T'as toute les dernière mises à jour, mise à jour de situation planétaire, en fait. Bon, mais ça, c'est le contact Ecobra. Nous, on relaie les informations, par contre, on les commente, on les explique, on les commente.
C'est ça, et merci pour tout ce travail, d'ailleurs, c'est ultra intéressant. Et donc, quand j'ai vu ça, notamment la dernière émission que tu as faite sur le New Age, ça a déclenché en moi toute une tonne de questions que je t'ai envoyées, et les voici. je vais les lire.
Commençons par le commencement.
Ouais, on va commencer par les implants. Alors moi, je savais pas avant de voir tes émissions qu'on avait des implants, qu'on aurait des implants. Je vais utiliser le conditionnel parce que pour l'instant, j'en suis pas persuadée vu que je ne sais pas si j'en ai ou pas. Je les ai pas sentis, je sais pas comment on peut les sentir. Mais par contre, si on a des implants et si je suis ta théorie, est-ce que ce sont eux qui nous maintiennent dans le mal? Et est-ce que justement dire qu'on en a, ça ne nous dédouane pas face à nos responsabilités d'être ayant le libre arbitre et ayant toujours le choix de pencher vers le bien ou le mal? Ça, c'était ma première question. Est-ce que avoir des implants, c'est se dédouaner d'être bon, puisqu'on se dit on glisse vers le mal puisqu'on a des implants?
Oui, c'est vrai que ça, c'est un risque. C'est un risque. Mais alors, déjà, effectivement, en fait, finalement, tu commences par la fin. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, les implants, c'est les choses qu'on découvre un petit peu de façon ultime. Alors, tu vois, voilà, quand tu parlais de ton parcours spirituel, on peut découvrir les médecines alternatives, le chamanisme, je ne sais trop quoi, la connexion aux esprits de la nature. Mais l'histoire des implants, c'est un petit peu la révélation ultime. Même si voilà, il existe encore sans doute quelques charlatans qui disent enlever les implants, qui en font un petit peu leur beurre, mais bon, je pense qu'il y a quand même assez peu de personnes qui parlent des implants, et la personne d'ailleurs qui en parle le mieux de notre point de vue, c'est le contact Ecobra. Donc déjà, quand on parle d'implants, effectivement, on ne sait pas trop de quoi on parle, parce que c'est un sujet qui est connu dans la communauté, dans l'ufologie. Dans l'ufologie, on parle des implants parce que on sait que les abductés, ils ont ou les contactés extraterrestres, assez régulièrement, ils ont des implants. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une émission qu'on a faite avec une abductée qui nous raconte son expérience et qui nous a raconté ses implants physiques, qui sont bien physiques, dans le corps physique. Et les effets que ça a justement sur son environnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'elle nous racontait qu'elle utilisait la machine ophtalmologique là pour faire le contrôle des yeux, qui tombait systématiquement en panne lorsqu'elle regardait d'une certaine façon à travers la machine à cause de ses implants. Voilà. Bon, donc nous on parle pas des implants extraterrestres, on parle pas des implants physiques. Nous on parle des implants qui sont non physiques. Et puis même sans parler des implants extraterrestres, les implants physiques, il y en a aussi des implants qui sont humains, qui si on en croit le contact Ecobra, ont été injectés dans la population humaine à travers les vaccins et à travers les sodas. Pourquoi les sodas? Parce que dans les sodas, c'est génial, il y a des bulles. Donc si jamais on met une micropuce dans une bouteille de soda, la micropuce, elle va pas rester au fond. Elle va être sans arrêt en agitation à l'intérieur du milieu bullé quelque part, et donc vous êtes à peu près sûr de l'avaler. Il y a beaucoup de spéculations sur les implants physiques, mais il y a aussi beaucoup de connaissances, et on sait qu'on a tout à fait les technologies pour le faire. Et d'ailleurs, même ce qu'on sait sur le plan, je dirais, civil, est largement en retard par ce qui est fait sur le plan militaire. Donc tout ça existe, mais nous, ce qui nous intéresse plutôt, les implants qui sont sur les corps non physiques. Donc dans notre vision du monde, donc il y a nous ne sommes pas faits que d'un corps physique. Hein. Je pense que toutes les personnes qui sont là sont bien au fait de tout ça. Donc, nous avons un corps éthérique, nous avons un corps émotionnel, appelé aussi corps astral. Nous avons aussi un corps mental. Et puis encore d'autres corps plus subtils, lorsque plus on va se rapprochant des plans divins. Et en fait, dans notre conception du monde, enfin en tout cas de la planète Terre, nous vivons donc sur une planète prison. Donc en fait, nous sommes finalement des prisonniers ou des esclaves qui ignorent d'une certaine façon leur statut de prisonnier et d'esclave à cause de cette logique des implants. Cette prison a des gardiens. Cette prison a des gardiens, des contrôleurs, ce qu'on appelle les contrôleurs de la matrice. Alors, on pourrait l'appeler la cabale. Enfin, bon, il y a plein de noms, hein, qui existent pour ça, pour les désigner, plus ou moins bien appropriés. Certains parlent d'Illuminati, même si Illuminati, ça désigne qu'une petite fraction. Enfin, bref. Ces contrôleurs, donc, en fait, ils ont la main sur le plan physique, à la surface de la planète. Ils ont la main sur le plan éthérique. Ils ont la main sur le plan émotionnel. Ils ont aussi la main sur une partie du plan mental, mais au-delà, ils n'ont plus la main. Ils n'ont plus la main parce qu'on est sur des plans qu'on qualifie au-delà de la dualité. Donc en fait, ils sont en capacité de nous implanter et donc de nous influencer sur le plan éthérique, sur le plan émotionnel, astral, et sur le plan mental. Et c'est ce que nous croyons effectivement qu'il se passe. Alors ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que ces implants, en fait, il y en a de toutes sortes. Mais nous, on a travaillé, on s'est focalisé essentiellement en fait sur ce qu'on appelle les implants primaires. Et les implants primaires, c'est une information qui est apparue à la surface de la planète à travers le contact Ecobra. Alors peut-être qu'il y a des écoles de mystère qui avaient ces informations, mais qui ne sont jamais devenues exotériques. Qui sont restés ésotériques, mais voilà, pour nous, c'est vraiment le contact Ecobra qui a mis à jour cette information. Mais il s'est pas contenté de mettre à jour cette information, il nous a aussi donné des outils. Et c'est là, tiens, j'anticipe juste un tout petit peu sur la suite, où tu pourras poser des questions justement sur comment suivre, peut-on suivre les canalisations. Et bien, justement, un critère intéressant, c'est de savoir, OK, une personne nous fait un constat, mais est-ce que derrière, elle nous donne notre pouvoir? Est-ce qu'elle nous prend notre pouvoir? Est-ce qu'elle nous le donne? Et est-ce qu'elle nous donne des outils, justement, pour faire face à cette situation? Et sur les implants, donc, il nous a donné des outils que l'on utilise depuis, depuis plusieurs années à travers des conférences de l'Ascension, mais de façon systématique et à travers des émissions en live depuis le 2 janvier de cette année. Donc on commence à avoir énormément de recul, sachant que ces exercices sont faits à l'international, dans beaucoup de communautés linguistiques différentes. Et donc on a énormément de recul. Et en fait, on ne peut pas, montrer ces implants, que ce soit par extraction ou par un microscope ou je ne sais trop quoi, puisque ils ne sont pas sur les plans physiques. Donc la seule façon en fait qu'on a finalement d'objectiver leur présence, c'est de travailler sur leur dissolution et d'observer les effets. Et quand on travaille sur leur dissolution, on observe effectivement des effets, une multitude d'effets. Et je dois dire que si on pourrait déjà écrire un livre d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faudrait faire si on avait le temps de s'en occuper. On a tellement de témoignages, tellement de retours concourants d'expérience par rapport à ces exercices sur la dissolution des implants que nous n'avons plus aucun doute sur leur réalité. Alors, je parle des implants primaires. Donc, les implants primaires, deux implants situés au-dessus des sourcils et un qui nous coupent en fait en partie donc des énergies de la source, et un implant primaire horizontal qui est situé un petit peu en dessous du plexus solaire, qui lui opère une scission entre la sexualité et les émotions et plein d'autres choses encore. Donc voilà.
Il n'y aurait pas de montée de Kundalini à cause de ça, par exemple?
Alors, c'est pour ça que je t'ai fait venir sur cette émission, parce que j'aime bien tes questions. j'aime bien tes questions parce que justement tes questions, elles touchent à des clichés. Elles touchent à des. Non, mais ne le prends pas mal du tout, au contraire. C'est-à-dire que elles touchent à des clichés importants dans le domaine de la spiritualité, et là, c'en est un. C'est-à-dire qu'on entend ici et là des multitudes de personnes parler effectivement de montée de Kundalini. Alors, on ne dit pas que la montée de Kundalini est impossible, mais effectivement, l'implant du plexus solaire est là pour bloquer la montée de Kundalini. Donc, si la montée de Kundalini reste possible, elle est infiniment plus rare que ce qu'on imagine, et ce que beaucoup de gens considèrent comme étant une montée de Kundalini n'est vraisemblablement pas cela, mais un ressenti énergétique un petit peu plus puissant, une montée de libido, une connexion d'âme, une reconnexion d'âme, des choses comme ça. Mais en tout cas, de notre point de vue, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, les autres co-animateurs, de notre point de vue, l'implant primaire, donc qui est situé 4 cm au-dessus du nombril, est bien là pour bloquer la montée de Kundalini, parce que la montée de Kundalini, c'est une décharge d'énergie très puissante. Et en fait, encore une fois, dans notre grille de lecture, tout est fait par les contrôleurs donc de cette matrice, de cette prison terrestre, pour empêcher justement que se déploie notre énergie spirituelle et notre lumière, puisque la matrice craint la lumière. La matrice est un écosystème sombre, et pour que les êtres qui vivent dans cet écosystème sombre puissent continuer à exister, ils doivent maintenir cet écosystème et donc faire en sorte de fermer les rideaux à chaque fois qu'ils le peuvent, et donc faire entrer un minimum de lumière, juste ce qu'il faut pour que la matrice continue à fonctionner, mais pas plus pour que eux puissent continuer à survivre.
Ok. Alors du coup, quand vous faites ces dissolutions d'implants, là tu dis que on pourrait écrire un livre dessus, tu sais, ça tombe bien, je suis auteur aussi. mais bon, pas de ça, mais écoute, j'ai plus de sujet de livre pour l'instant dans la romance, donc pourquoi pas, hein. Ça pourrait très bien être un prochain sujet. Mais en tous les cas, quels exemples tu aurais à me donner de qu'est-ce qui se passe, puisque tu n'as pas... élaborer là-dessus, qu'est-ce qui se passe quand les implants sont dissolus. Et tu me disais aussi qu'on ne pouvait pas les dissoudre complètement. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement, du coup ?
Alors, on va changer un petit peu de speaker. Donc, moi, j'invite Cindy, là, qui anime maintenant justement les séances francophones de dissolution des implants. Cindy, accepterais-tu de répondre à la question de synchronicité ?
Il faudra me répéter la question parce que, comme d'habitude, je suis sur plusieurs trucs en même temps.
Je vais la répéter pour toi. Donc, tout à l'heure, Hervé mentionnait que vous faisiez de la dissolution d'implants et qu'on pourrait écrire un livre sur toutes les conséquences que ça a. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, Cindy, sur les conséquences ? Et c'était quoi ma deuxième question ? Je ne sais plus ce que c'était. Oui, quel effet ça a, en fait ? Et comment vous les dissolvez ? Puisque, apparemment, on ne peut pas les dissoudre entièrement.
Concernant les implants primaires, ce sont des implants non physiques et subtils, donc on ne peut pas les dissoudre, on peut seulement atténuer leurs effets. D'accord. Et pour cela, Contacté Cobra nous a donné des protocoles de protection et des exercices à faire dans un ordre précis. Donc on les fait assez souvent, et on les fait en français, puis maintenant l'idée est venue et on a fait des tutorats pour que ce soit fait à l'international dans plusieurs langues. Les implants primaires, donc il n'y en a que 3, évidemment. Bien qu'on en ait bien.
Alors, j'en ai parlé, Cindy. Hein. Du coup, si tu n'étais pas là, c'est inutile de répéter. Mais c'était plus par rapport aux effets. C'est-à-dire que ce que j'exprimais vis-à-vis donc, de synchronicité, c'est que nous, on ne peut pas objectiver ces implants sur le plan physique. Par contre, on peut les objectiver parce que lorsqu'on fait ce travail de dissolution, on observe des effets sur nous. Et en fait, on les a, ces effets, on les a à travers les commentaires du public, puisqu'on anime donc ces séances à travers des lives sur YouTube et sur Facebook, et les gens s'expriment. Les gens s'expriment sur ce qu'ils ressentent, sur ce qui se passe, et même a posteriori, justement, ils viennent nous dire, je ne mens pas, hein, ce sont des vrais témoignages. Il y a certaines personnes, ça a carrément changé leur vie, parce qu'ils ont réussi à faire rentrer un petit peu plus de lumière que d'habitude, que ce qu'ils ont l'habitude de faire justement avec leur routine spirituelle classique. Et du coup, ça a changé des modes de fonctionnement, ça a généré des prises de conscience, ça a changé un petit peu les relations avec leur environnement. Donc ça a des effets assez surprenants. Et quand je parlais de livres, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que écrire un livre sur... on a des informations assez ésotériques sur le mode de fonctionnement de ces implants, parce qu'en fait, en l'occurrence, ces implants sont là pour nous bloquer certaines énergies. Ils sont là aussi pour, comment dire, nous maintenir dans ce qu'on appelle Donc l'anomalie plasmique, donc cette énergie sombre qui nous enveloppe en fait, qui constitue cet écosystème, donc dont je parlais tout à l'heure, mais ça constitue aussi des systèmes de supervision, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de nous superviser à travers ces implants, et donc potentiellement donc de savoir ce que l'on dit, de voir ce que l'on voit. Mais pas forcément de pouvoir lire dans nos pensées. Donc il y a ce qu'ils appellent des chambres à énergie scalaire autour de ces implants. Alors ces implants, ce sont des micro trous noirs en fait de la taille d'un électron et qui sont dans une chambre scalaire. Et en fait, nos pensées, les pensées que nous avons ou alors ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous disons forme il y a des impulsions électromagnétiques à l'intérieur de notre cerveau, et ces impulsions électromagnétiques à l'intérieur de notre cerveau peuvent être écoutées justement via ce champ scalaire des implants. Et donc, comme ces implants sont reliés à des stations d'implants, encore une fois, on ne vous demande pas de croire à tout ce que l'on dit, bien évidemment. Faites fonctionner votre discernement, c'est très, très important. Mais comme ces implants sont reliés à des stations d'implants, ils sont en capacité, d'une certaine façon, de nous monitorer. Et c'est pour ça que, à pas mal de reprises, quand il y a eu des projets un peu secrets, comme je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, on avait parlé du projet Contact Dish, pour demander à être mis en contact avec des extraterrestres, des galactiques, pour proposer justement que notre terrain, par exemple, notre terrain privé, soit un terrain d'atterrissage pour des galactiques positifs. Et ils nous avaient dit, faites bien attention, ne le dites pas à voix haute, ne le pensez pas trop fort quelque part, parce que nous sommes monitorés à travers ces implants, et du coup on vous met sur liste rouge et on interdit aux galactiques positifs de rentrer en contact avec vous. Donc voilà, bon, désolé, j'ai repris parce que j'ai senti, Cindy, que tu avais un petit peu perdu le fil avec comme tu suis le chat en même temps.
Mais les implants, quand on regarde, d'être pleinement nous et nous empêchent de vivre correctement, tu vois, parce que pour les implants qui sont dessus des sourcils, il nous sépare de notre présence je suis, dont notre aspect est multidimensionnel. Il bloque notre connexion à la source. Il compromet notre libre arbitre et notre processus de prise de décision. Donc, on est contrôlé, on est manipulé. Pour l'implant du plexus solaire au-dessus du nombril, lui, il crée une rupture entre les énergies féminines et masculines de l'énergie sexuelle. Il sépare le terrestre du céleste. Il bloque les émotions de l'esprit. Il bloque l'amour. Enfin, il sépare l'amour de la sexualité et perturbe les relations entre les hommes et les femmes. Donc ça bloque en fait, comment dire, ça empêche ça nous empêche d'avoir beaucoup de lumière en nous, quoi. Et ça nous maintient aussi dans l'amnésie collective, c'est-à-dire on oublie nos vies antérieures et on oublie qui on est réellement, parce que on vit une incarnation sur la Terre, mais en fait on a tous des origines galactiques, on n'est pas de cette planète-là, on est d'autres mondes et d'autres plans. Et ça nous bloque aussi un peu dans le plan physique. Ça nous empêche d'avoir accès à d'autres plans multidimensionnels et non physiques, quoi.
Est-ce que l'addiction, par exemple, est quelque chose qui est provoqué par ces implants ? L'addiction à n'importe quoi, hein, l'alcool, la drogue, le sucre, tout.
Tu peux faire qu'on se comporte mal et qu'on a un comportement négatif. Pas complètement, mais ça peut influencer, ça peut nous mettre sur la pente descendante, quoi. Ça nous empêche. Oui, Hervé.
J'ai une réponse à ça. Je peux donner une réponse à ça parce qu'en fait, on a clairement établi par l'expérience, encore une fois, que le travail de dissolution des implants, en fait, nous permettait justement d'éliminer les toxines. D'ailleurs, dans les séances de dissolution d'implants, on recommande aux gens de boire de l'eau pure. Autant que faire se peut, justement, parce qu'on s'est rendu compte, et c'est encore une fois, c'est même quand on ne le dit pas aux gens, ils nous disent, mais j'ai vachement soif, là, depuis que je fais le travail, là, sur, en fait, on fait le travail sur les implants, donc, des sourcils, et puis après, on fait le travail sur l'implant du plexus, et ça donne terriblement soif aux gens, et en fait, ça s'explique très simplement, c'est parce que, en fait, ces implants retiennent, justement, ce qu'on appelle l'anomalie plasmique, enfin, retiennent, on va dire, les toxines, voilà, retiennent les toxines, et le fait de travailler sur leur dissolution, ça favorise l'élimination des toxines, d'où la grande sensation de soif. Et donc, indirectement, donc c'est pas directement, mais indirectement, on peut dire que les implants, justement, comme ils fixent les toxines, ben, d'une certaine façon, ils vont empêcher justement cette élimination et ils vont favoriser le phénomène d'addiction. Parce que l'addiction est quand même très liée justement à la toxémie. Si on peut enlever instantanément toute la toxémie d'un corps, l'addiction, elle disparaît. Alors, il y a des phénomènes aussi psychologiques, bien sûr, hein, je dis pas ça, mais il y a quand même une grosse partie de l'addiction, elle est ancrée quand même sur le plan physique, à travers la toxémie.
Ok. Et alors, merci en tous les cas pour ces éclairages. Et alors, est-ce qu'on est du coup pas capable de s'élever complètement spirituellement à cause d'eux ? Enfin, même si on fait ce travail de dissolution d'implant, est-ce qu'on arrive à s'élever beaucoup plus du coup ?
Alors, est-ce qu'une autre personne souhaiterait prendre la parole ?
Ben, moi, je dirais qu'en fait, on ressent en fait qu'on est tout le temps freiné dans notre évolution parce que ça fait des décennies qu'on travaille sur nous, qu'on avance, qu'on nettoie et tout ça. Et en fait, une image que j'aime bien, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être presque enfermé, enchaîné d'une certaine façon et qu'on étouffe à l'intérieur et qu'on aimerait bien respirer vraiment profondément et puissamment, mais on sent qu'il y a toujours quelque chose qui est là à nous serrer. Et ça, je pense que pour moi, c'est comme ça en fait que je ressens ces implants et je sens que ça m'empêche d'être, mais d'être avec un grand E en fait. Ça m'empêche de devenir vraiment libre. Et plus j'avance, plus je sens cette pression en fait, où mon être a vraiment envie de se libérer. Et en fait, tu sens que c'est pas possible en fait. C'est bien au-delà de nous en fait. Et cette sensation, pour moi, est vraiment très représentative de ce que nous font les implants, en fait. Vraiment, ça s'est accroché à nous et c'est comme si on était lesté par des énormes poids pour rester au sol, en fait, quoi.
Et justement, alors vous disiez qu'ils exerçaient un contrôle. Si on fait ces méditations de dissolution d'implants, est-ce que, du coup, ils le perçoivent et ils resserrent la vis de l'implant ?
Aussi en partie pour ça qu'on ne peut pas les dissoudre complètement. C'est parce qu'à chaque fois, de toute façon, dans les stations d'implants, ils ont les technologies nécessaires pour savoir à quelle intensité fonctionnent les implants, si ça va, etc. Ils détectent tout. Et on ressent des différences à court, moyen et long terme par rapport à quand on ne faisait pas les sessions d'atténuation et les effets que ça a depuis qu'on les fait. Par exemple, moi, avant de les faire, enfin moi, ça fait quasiment un an que je les fais régulièrement en français et en anglais. Et avant, je n'étais pas du tout ouverte aux énergies, aux pierres, j'avais pas trop de ressenti, j'avais du mal à discerner le vrai du faux dans les informations, j'avais du mal à détecter les énergies des gens, et maintenant, je détecte les énergies des gens. Je sais même quand quelqu'un me scanne, je sais bien détecter les environnements, j'ai des meilleurs ressentis, j'ai un meilleur discernement spirituel et énergétique et j'ai même une connexion d'âme qui s'est activée avec une âme sœur. J'ai eu pas mal de choses en même pas un an, quoi. Et je suis devenue de plus en plus consciente de mes origines galactiques et je suis même en lien avec ma civilisation d'origine. Donc, beaucoup de choses, quoi. On ressent vraiment les différences. On ressent vraiment les choses quand on fait les sessions ou les exercices depuis un certain temps.
Et donc, il faut le faire avec une régularité énorme, en fait. Il faut le faire tout le temps, si on veut.
Pas tout le temps, mais régulièrement. Parce que justement, on ne peut pas les dissoudre complètement. On peut les affaiblir, les atténuer, mais ceux-là, on ne peut pas les dissoudre complètement, puisque au fur et à mesure, bah, avec les stations d'implant, on va dire qu'ils se refont, entre guillemets, quoi. Mais en faisant régulièrement les exercices, on peut combattre et affaiblir les implants et être un peu plus nous-mêmes et avoir... retrouver notre aspect multidimensionnel et mieux ressentir les choses, être plus conscient du monde dans lequel on vit et du coup éclairer et éveiller les autres à notre tour.
Et alors justement, l'une des questions que je posais à Hervé, c'était mais quelle force colossale il a fallu aux avatars pour s'élever dans ce contexte. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un avatar, je le dis quand même parce que moi, la première fois que j'ai vu ce mot, j'étais là, bah, c'est le film, c'est quoi ce truc. Et en fait, c'est les Jésus, les Bouddhas, enfin tous les grands éveillés de ce monde.
C'est ce que j'appelle les grands initiés. Les grands initiés. Ouais, non, mais c'est ça. Alors, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, Je te disais tout à l'heure que les implants, c'est un peu la fin, parce que, comme tu dis, en fait, je pense que si on se dédouane de son travail spirituel sous prétexte des implants, bah, effectivement, on n'a rien compris. Et on est là, on tombe les deux pieds dans un piège qui nous est dressé. Les implants, en fait, pour arriver à les sentir et les objectiver, il faut déjà avoir fait quand même un sacré chemin. Voilà, il faut avoir fait un sacré chemin. C'est pour ça que on peut. Enfin, c'est quelque chose. C'est pas forcément une information qui a donné entre toutes les mains. Parce que voilà, c'est très perché et franchement, pour faire ses premiers pas dans le monde de la spiritualité, on n'a absolument pas besoin de ça. Ceci étant, si c'est un sujet qui vous parle et que vous avez tout simplement envie d'essayer ces séances de dissolution d'implant, même si vous êtes novice dans la spiritualité, allez-y. Mais c'est juste voilà, il faut faire attention à ça. C'est que si vous vous trouvez face à des difficultés et que vous invoquez tout de suite la présence des implants pour expliquer cette difficulté, les implants, on peut pas les dissoudre, donc finalement je peux pas avancer plus. Là, je suis au top, là, je suis au taquet. Là, je pense que effectivement là, on est pas bien, quoi. On est dans l'erreur, on est dans l'illusion, l'auto-illusion. Ce que dit le contact Ecobra, et je pense que c'est aussi ce qu'on a expérimenté à travers cette année de travail sur la dissolution des implants, c'est que il va être très 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 compliqué de se débarrasser des implants avant ce qu'on appelle l'événement, donc un grand flash de lumière du Soleil central galactique, sachant que la lumière du Soleil central galactique est une lumière qui dissout les implants justement. Et c'est pour ça que quand on travaille sur sa reconnexion spirituelle, mais à des fréquences assez élevées, pas au niveau chamanique, un niveau beaucoup plus élevé, et quand on travaille avec les pierres Sintamani, la pierre Sintamani a la capacité justement de dissoudre les implants. Donc une grande vague galactique de lumière viendra, en même temps qu'elle détruira les stations d'implants, viendra dissoudre définitivement les implants. Mais avant ça, ça reste très compliqué, et comme tu le dis, il faut avoir une énorme puissance spirituelle, telle celle que peut déployer par exemple un avatar, donc un grand initié, pour justement pouvoir faire face à ça. Alors, ce qui concerne les grands initiés et les avatars, moi je me pose une autre question, je me demande même, parce que j'ai lu quelques textes gnostiques, donc le gnosticisme en fait c'est le savoir des pré-chrétiens, c'est le premier savoir au contact du Christ, en fait, avant qu'il soit déformé par la religion, par l'Église, la mise en place de l'Église. Ce qu'on comprend, c'est que le Christ, il a même la main sur les archontes, c'est-à-dire qu'il rentre dans le système matriciel. J'aime bien donner cette image. Il donne 2-3 baffes aux archontes en rentrant. Il fait le travail qu'il a à faire. Il ressort et puis il redonne 2-3 baffes aux archontes en sortant. Et en fait, au final, je pense pas qu'ils aient pu l'implanter. Au final, je pense pas. C'est de la pure spéculation, mais un avatar très puissant de lumière qui a la capacité d'entrer dans la matrice pour une raison X ou Y, hein, on connaît pas je saurais pas expliquer le contexte, il y avait un contexte très particulier à l'époque, et je suis pas sûr qu'il se laisse implanter parce qu'il est dans la supraconscience. Nous, en fait, on est à moitié conscient parce que voilà, après c'est aussi lié aux implants, mais on a une force spirituelle qui est pas suffisante pour être conscient 24 heures sur 24. Et à partir du moment où tu ne peux pas être conscient 24 heures sur 24, il y a forcément des moments d'inconscience, et les forces sombres adorent ces moments d'inconscience. Les forces sombres adorent nous planter des couteaux dans le dos, c'est-à-dire que c'est lorsqu'on ne sait pas se défendre qu'ils agissent, et notamment qu'ils peuvent. Là, je parle pas des implants primaires. Moi, j'en ai fait l'expérience sur des implants qui n'étaient pas des implants primaires. On a joué à les griller en s'amusant avec des pierres Sintamani. Et puis, en rêve conscient, je me suis rendu compte que, ils arrivaient à les remettre, à les repositionner pendant la nuit discretos. Mais ça, c'est pas des implants. C'est d'autres types d'implants. C'est des implants subtils aussi, pas des implants physiques, mais pas les implants primaires. Les implants primaires, on est sur du micro-trou noir, on est sur de la physique quantique, on est sur des choses qui sont, c'est une imprégnation très profonde qui est connectée à la matrice noire, et donc ils ne pourront disparaître qu'avec la disparition de la matrice noire, pour dire les choses de façon crue. Voilà.
Alors, justement, c'est un truc qui m'a fait beaucoup cogiter quand j'ai eu connaissance du Codex Galactique, c'est ça ? Je ne me trompe pas ? c'est comme ça que vous l'appelez ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Donc, on avait un droit inaliénable au bonheur. Enfin, au bonheur ou à la liberté. En fait, on ne devrait pas être en train de vivre cette vie sur la Terre, mais comme on est prisonnier, voilà. Mais moi, ce que je ne comprends pas, en fait, c'est pourquoi l'univers a-t-il permis que ça arrive, quoi. C'est comme de m'enlever ma mère à 15 ans, quoi. Pourquoi me mettre une expérience si horrible dans ma vie alors que ça aurait pu être peut-être évité?
Alors, je donne un premier élément de réponse et puis après je vais laisser les filles parler. Pourquoi ça t'est arrivé? Parce que tu es dans la matrice. Et dans la matrice, l'objectif, c'est de générer le maximum de souffrance. Voilà. Donc, on fait en sorte, par rapport à ton, on va dire, par rapport à tes origines galactiques, ta lumière naturelle, ils essayent, et ta conscience que tu peux avoir lorsque tu es une âme vacante entre deux incarnations, on essaye de t'imposer un certain nombre de contrats et on essaye de t'imposer le pire pour que tu ne sois pas en capacité de réaliser ta mission de lumière. Et donc, on va essayer de te faire vivre les pires expériences qui vont te faire mal, qui vont te faire mal au cœur, qui vont te fermer. Et voilà, ça c'est ma grille de lecture par rapport à cette vie dans la matrice. Mais à l'extérieur de la Terre.
Attends, parce que comment l'univers peut accepter ça, que du coup on s'incarne là?
Alors,
parce qu'on a le choix quand on est mort. Enfin, une fois qu'on est mort, qu'on est une âme, on
alors, peut non.
se réincarner là.
Non, non, dans notre grille de lecture, on est dans un système de recyclage permanent des âmes. C'est-à-dire que une âme a pu pénétrer donc dans ce qu'on appelle le système matriciel, donc ce système sombre, par sa propre volonté ou à ses dépens. Donc à ses dépens, ça veut dire quoi? Ça veut dire une âme qui a été capturée, typiquement comme on allait chercher à une époque des esclaves en Afrique noire pour aller les faire travailler en Amérique ou ailleurs. Ils n'ont rien demandé, on les a capturés et on les a mis en statut d'esclave. Donc, il y a des âmes qui ont vécu ça. Et il y a d'autres âmes qui, elles, ont fait le choix d'intégrer le système matriciel pour pouvoir le saper de l'intérieur. Voilà. Et donc, elles ont fait ce choix-là. Mais bon, c'est un choix qui est courageux, quelque part, avec toutes les souffrances que ça implique. Mais une fois qu'une âme est rentrée dans ce système matriciel, donc il y a un voile, hein, ce qu'on appelle un voile autour de la planète Terre, qui personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir, théoriquement. Alors, sauf évidemment ce qui est autorisé par les contrôleurs. Donc, les âmes ne peuvent plus s'échapper et doivent se recycler de façon perpétuelle à l'intérieur de la matrice. Donc, c'est ça. Mais là, on ne parle pas du reste de l'univers, on parle juste de la Terre. On ne parle que de la Terre. Alors, il y a quelque temps, il y avait d'autres systèmes qui vivaient aussi sous le contrôle des forces sombres. Aujourd'hui, on considère qu'il n'y a plus que la Terre, c'est le dernier bastion. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que la Terre. Ailleurs, on est libre. Les âmes sont libres de s'incarner, de se réincarner comme elles le souhaitent, où elles le souhaitent, et bénéficier des articles du Codex et du bonheur et de l'abondance inconditionnelle.
Et alors, justement, bah, donc ça nous amène à l'événement, le fameux événement dont vous parlez. Alors, à quoi il ressemblera? Bah, alors, tu m'as envoyé une vidéo pour me dire, et puis tu l'as dit tout à l'heure que c'était un grand rayon de lumière du soleil central, ça, je ne me trompe pas? Tu veux peut-être le redécrire?
Oui, c'est ça. Bah, allez-y, je ne vais pas parler tout le temps, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous laisse, je ne sais pas, Cindy ou Gwen. Allô, allô? Non? Vous voulez pas? Ou elles sont pas là, peut-être? Bon, ok. Alors, l'événement, ce qu'on appelle l'événement avec un grand E, c'est la conjonction de plusieurs choses. Sur le plan physique, des arrestations massives, de tout ce qu'on appelle la cabale. Les contrôleurs du système, qu'ils soient en bas ou en haut de la pyramide des contrôleurs, parce que les contrôleurs, ils sont aussi en mode d'esclaves. Il y a un sommet et puis il y a une base de la pyramide. Donc, des arrestations massives, une réinitialisation du système financier, parce qu'en réalité, notre système d'esclavage est basé et tourne autour de ce système financier qui a beaucoup de magie noire, en fait, on ne le sait pas, mais qui inclut beaucoup de magie noire. C'est un asservissement par la dette. Notamment, hein, un principe clé, c'est l'asservissement par la dette, et une grande vague galactique de lumière qui va venir du Soleil central galactique, qui va nous permettre finalement de supporter tout ça, parce qu'il va y avoir aussi une divulgation qui va être faite, une grande divulgation où normalement toute vérité se sera faite à la surface de la planète, sur tout ce que nous avons vécu avant. Donc on va avoir besoin de cette vague pour nous soutenir et puis pour pouvoir en même temps déchirer le voile et mettre un terme à cette matrice. Donc l'événement, c'est tout ça. Mais l'événement n'est pas à confondre avec l'ascension planétaire. On a fait une émission là-dessus aussi. L'ascension planétaire viendra après. L'ascension planétaire, c'est un changement de plan vibratoire, on va dire, pour la planète et l'ensemble de ses habitants. Mais ça viendra après. Et il n'y aura pas d'ascension sans événement. L'événement est le prérequis indispensable.
Je croyais que la Terre était déjà en train d'ascensionner.
Alors ça aussi, ça fait partie des clichés un peu New Age, c'est-à-dire que qui sont un peu voire franchement démobilisateurs. Et c'est pour ça que, moi je prends la parole par rapport à ça. C'est-à-dire que effectivement, la Terre évolue sur le plan vibratoire. Effectivement, voilà, on avait expliqué pas mal ça lors du live sur l'ascension et l'événement, avec les analogies avec l'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez là, de l'eau qu'on met dans une casserole et qu'on fait chauffer. Donc, il y a des mouvements de convection dans la casserole quand on commence à faire chauffer l'eau, avant que l'eau n'entre en ébullition. Donc, effectivement, il y a des mouvements de convection, la Terre gagne en vibration. Mais ceci étant, elle n'a pas changé de plan vibratoire. Donc, on joue un peu sur les mots, mais on joue sur les mots justement pour nous démobiliser. Si on considère que l'ascension, c'est un changement de plan vibratoire, l'ascension n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu avant que l'événement n'ait eu lieu, et même elle aura lieu qu'un certain temps après l'événement. Si on considère que l'ascension, c'est une évolution vibratoire de la planète, alors on peut jouer sur les mots, mais c'est vrai que j'aime pas trop ça, parce qu'on a encore du travail à faire. L'étape la plus dure à franchir, c'est l'événement, c'est pas l'ascension. C'est le discours que je tiens communément.
Ouais, puis il ne faut pas oublier que quand l'événement va arriver, ça va vraiment en fait nettoyer. Donc, c'est-à-dire que toute cette ambiance énergétique vraiment dark et pourrie qui nous entoure, ça va disparaître en fait. Énergétiquement parlant, ça va être complètement différent. C'est comme si on pouvait visualiser un espèce de gros nuage noir épais, ou alors qu'on nageait vraiment complètement dans la boue, où la lumière a énormément de n'a pas de facilité pour pénétrer, en tout cas. Du coup, avec l'événement, ça va nettoyer tout ça. Donc, on va se retrouver dans un contexte énergétique qui sera complètement différent. Donc, c'est ça aussi l'événement, c'est ce gros nettoyage de toute cette noirceur environnementale. Et ça, c'est hyper important.
Alors, justement, moi, par rapport à cet événement, dans toute la littérature que j'ai pu lire spirituelle, on dit qu'il n'y a pas de temps et que tout est déjà advenu. Et justement, moi, ma question qui m'est venue après avoir entendu parler de cet événement, et puisque moi, je n'ai pas accès à ces trucs-là, je n'ai pas ce canal, je n'ai pas de vision, j'entends pas des trucs, je n'ai pas des rêves prémonitoires, voilà. Mais par contre, il n'y a pas des gens qui sont reliés justement à leurs autres vies futures ou qui ont des précognitions, des capacités à se relier à des futures incarnations et qui ont cette info de quand ça arrivera et comment ça arrivera.
C'est pas possible en fait.
Ouais, vas-y. Ouais.
Non, c'est pas possible parce que en fait, par exemple, prenons un temps là maintenant, imaginons, je canalise une information ou un événement futur. Les actions qui vont se passer entre le moment où, par exemple, je vais canaliser cette information et la date que j'ai entendue à ce moment-là, il y a des actions qui vont se passer après. Et en fait, toutes les lignes, c'est-à-dire que les actions ont forcément une conséquence. Donc là, sur le plan physique, puisque là, on est sur le plan physique, vont avoir des conséquences. Donc, ça va forcément amener des retards, des avancées ou ne pas bouger. Mais on n'a jamais aucune certitude que ça ne va pas bouger. En fait, tout est toujours en mouvement. On ne peut pas dire les choses sont fixées à telle date. Ça veut dire que c'est comme si on mettait tout en stand-by, qu'il n'y avait plus d'action qui se passait pour que la date puisse tenir. C'est à partir du moment où il y a des actions, des choses qui se passent, en fait, on est en perpétuel mouvement. Donc, c'est impossible en fait, de tenir une date. Quoi. Et c'est un peu ce qu'on compare souvent à à ce calendrier par rapport à l'événement. C'est pas possible parce que suivant les actions des uns et des autres, en fait, on passe notre temps à bouger de ligne de temps. On pourrait imaginer un point, le point, c'est le moment présent, et avoir plusieurs lignes droites qui partent de ce point. Et toutes ces lignes droites, en fait, sont des potentiels, en fait, suivant les actions qui vont se passer. Enfin, voilà, ce sont des lignes potentielles où tout est possible.
Alors moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur le temps n'existe pas, parce que c'est aussi un truc, encore une tarte à la crème de la spiritualité. Et je vais juste me permettre de te poser une question, synchronicité. Essaye d'y répondre. En fait, je sais. Donc dans notre vision du monde, et puis je pense qu'on en a d'ailleurs suffisamment de preuves. Moi, je collecte des vidéos, par exemple, sur le satanisme, les abus sur les enfants, donc sur le site Lève le Voile, donc on a infiniment de preuves et voilà, il n'est pire aveugle que celui qu'il ne veut pas voir. Donc on est dans un monde où on torture beaucoup, voilà, on torture beaucoup des êtres humains et pas que. Donc le temps n'existe pas, très bien. Alors moi je pose une question, je vais te torturer, synchronicité. Je me propose de te torturer. Seulement, tu as le choix. Je te torture pendant une seconde ou bien je te torture pendant une heure. Qu'est-ce que tu préfères ?
Bah forcément, je vais te répondre une seconde.
Donc, tu es en train de me dire que finalement, il y a une différence entre une seconde et une heure.
Bah oui, mais moi, j'ai pas la preuve que le temps n'existe pas. Moi, je te dis, c'est ce que j'ai lu en spiritualité, mais pour moi, j'ai jamais eu la preuve physique ou j'ai pas fait d'expérience cosmique que le temps n'existe pas. J'ai jamais eu cette preuve.
Donc la prochaine fois qu'une personne vous dit « le temps n'existe pas », je vous invite cordialement à utiliser cette métaphore et vous vous rendrez compte tout de suite que la personne admettra de facto que le temps existe bien. Je suis comme toi, je ne choisirais pas d'être torturé une heure, je préférerais être torturé une seconde plutôt que d'être une heure parce que j'ai bien conscience du temps qui passe. Et pour les âmes qui sont depuis 25 000 ans justement, puisqu'on considère que cette matrice a à peu près démarré il y a 25 000 ans dans la matrice, on a bien conscience du temps qui passe, ça je peux vous le garantir. Par contre, et c'est là encore une fois que voilà, c'est tarte à la crème New Age, elle déforme beaucoup les choses, la perception du temps est différente d'un plan vibratoire à l'autre. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas le temps s'écouler de la même façon que ceux qui, que les galactiques qui nous aident, là, qui sont au-dessus de nous. Le temps s'écoule pas du tout de la même façon. Moi, personnellement, je suis un rêveur conscient. Donc, finalement, j'ai accès à pas mal d'informations grâce à ce biais-là. Je suis pas canal, je vis juste de façon consciente certaines choses la nuit. Donc pas dans mon corps physique. Et par exemple, j'ai eu l'occasion de vivre des opérations chirurgicales qui émanaient pas de forces sombres. Et elles se passent à la vitesse quelque part à la vitesse de la lumière. Donc il se passe, voilà, vous avez à peine le temps de dire ouf que pour eux, vous êtes sans doute passé 3 ou 4 heures sur une table d'opération, mais pour vous, ça a duré juste une fraction de seconde. Donc, le temps ne s'écoule pas de la même façon suivant le plan vibratoire sur lequel vous êtes. Mais le temps existe bien, je vous le garantis. Voilà.
Mais quel intérêt, du coup, ils auraient à colporter cette tarte à la crème New Age que le temps n'existe pas ?
Eh ben, peut-être justement pour nous faire croire que finalement il y aura pas d'événement puisqu'il y a aucun canal qui ne le prédit,
il y a aucun canal qui le prédit. Qu'est-ce que tu penses de la Bible et de la fin du monde dans la Bible, c'est ça ou c'est pas ça?
Non, mais en termes de date précise, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait en réalité En fait, nous sommes tous des co-créateurs de la réalité. Et nous sommes tous, et ça c'est un point super important, nous sommes tous des co-créateurs de l'événement. Nous sommes tous des co-créateurs de l'événement. C'est-à-dire que si nous ne travaillons pas, l'événement n'aura jamais lieu. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on se met dans l'attente de l'événement, l'événement n'aura jamais lieu. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, on est un petit peu en lutte contre les canaux, parce que en fait, les canaux, c'est un petit peu justement l'ingénierie de la déception permanente. On annonce des dates, on dit ouais, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Tu sais, c'est comme avec Trump. Trump va revenir au pouvoir, il va nettoyer le marais, il va arrêter tous les pédos, etc., etc. Mais en réalité, il ne reviendra pas. c'est en réalité, on nous met encore une fois dans notre dans la passivité. Donc ça, c'est super important. Il faut vraiment qu'on se mobilise tous les uns les autres pour que cet événement il ait lieu. Et alors, on va pas faire tout le boulot, évidemment, mais moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a 1% du boulot qui doit être fait par la population de surface pour que tous ceux qui nous aident en dessous et au-dessus puissent faire les 99% qui restent. Mais voilà, notre travail, il est vraiment indispensable. On est tous co-créateurs de ça.
Et donc, le travail, c'est de faire les méditations que vous proposez, d'enlever les implants, etc. C'est ça le travail, ou il y a d'autres choses qu'on peut faire concrètement, comme se positionner contre le gouvernement, ne pas se faire vacciner, enfin, est-ce que ça compte aussi ou pas?
Tout compte. Il faut travailler sur tous les plans, effectivement. Et ceux qui travaillent dans le plan physique et font des procédures, justement, contre le gouvernement par rapport aux mesures liberticides, ben c'est bien ce qu'ils font, c'est bien, il faut les soutenir. Après, voilà, il y a différents modes d'action. Bon, bien sûr, on peut être pour ou contre, mais en tout cas, il faut agir sur tous les plans. Et nous, donc, ce qui nous caractérise, hein, c'est un petit peu la marque de fabrique, on va dire, révolution vibratoire, c'est de considérer que nous, on agit sur les plans subtils. Mais ce qui n'empêche pas d'agir sur le plan physique. D'ailleurs, tu vois, moi, je diffuse beaucoup d'informations. Je fais beaucoup de divulgation aussi à travers les blogs et les vidéos, etc. Donc, ça n'empêche qu'on peut travailler sur les différents plans en même temps. Donc, il y a plein de façons d'agir. Mais ce qu'il faut surtout, c'est pas être en attente de la prochaine astrovoyance que nous donnera tel ou tel canal, parce qu'il y en a beaucoup actuellement. Et c'est surtout de prendre son courage à deux mains. Parce que je vais redonner un exemple. Toujours le travail sur les implants. Aujourd'hui, là, sur la session francophone des implants. Je sais pas à combien on était, on tournait, Cindy, je sais pas si tu es avec nous, mais on était à 60 personnes peut-être la dernière séance. Mais c'est triste. C'est triste de voir que quand il y a une séance d'astrovoyance qui est donnée par un canal, quel qu'il soit, tu as 100 000 personnes qui au final viennent l'écouter. Et quand il s'agit de se retrousser les manches et de faire le boulot, pas juste d'être passif et d'écouter, comme on dirait se planter devant la télé, quand il s'agit vraiment de bosser, de travailler sur ses implants, il n'y a plus que 50 personnes. Voilà.
J'ai été assez frappée en fait par le peu de gens qui te suivaient et justement je me suis dit c'est étonnant quand même parce que c'est peut-être justement parce qu'on est trop englué dans ces idées New Age. Et justement je te parlais de Doreen Virtue là, donc qui est une auteure qui était New Age, et là je suis sur son site parce que tu me disais tu la connaissais pas. Et elle a fait un gros truc sur son site en disant, elle a fait un livre même qui s'appelle Deceive No More, et qui dit, le sous-titre c'est How Jesus Led Me Out of the New Age and Into His Word. Pas world, mais word.
Donc, alors, justement, raconte-nous l'histoire de cette dame, parce que ça vient tout à fait illustrer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est une dame qui était canal.
Alors, elle était canal, tout à fait. Et elle a écrit énormément de livres. Alors, moi, c'est grâce à elle que j'ai appris l'existence, par exemple, des anges terrestres. Et dans son livre sur les anges terrestres, par exemple, elle dit qu'il y a justement des stellaires incarnés, des gens qui viennent des Pléiades, etc., qui viennent nous aider sur cette planète. Et qui font ce choix parce qu'on a bien besoin d'aide sur la planète Terre. Donc, ils choisissent d'être prisonniers de la matrice, si je suis ta grille de lecture. Donc c'est la première fois que j'entendais parler des anges incarnés. Elle a écrit tout un tas de livres sur aussi la guérison via les techniques des Atlantes, les cristaux, etc. Elle a écrit des bouquins sur les anges, les archanges, l'archange Michael notamment. Il y a tout un bouquin sur comment il t'aide, comment tu peux l'appeler, comment passe ceci, cela. Et donc elle a renié tout ça. Elle a dit: tous les livres que j'ai écrits sur ces sujets, je les renie et je donne l'ordre à mon éditeur d'arrêter de les vendre. Ils n'ont plus le droit de les vendre. Alors, je ne sais pas si les éditeurs suivent vraiment son truc, parce que c'est une mine d'or. Hein. C'est quand même une des auteurs de spiritualité parmi les plus connues aux États-Unis, en tous les cas, et je pense dans le reste du monde. Et puis, elle a mis sur son site, elle a même fait un livre sur je ne veux plus être, je ne sais plus comment on dit, deceived, c'est un faux ami en anglais, désappointé, trompé, voilà, trompé. Deceived, c'est trompé. Je ne veux plus être trompé, et maintenant, elle a eu une révélation à un moment donné de Jésus, alors l'avatar, j'espère, parce que j'espère que c'est pas le Jésus de la religion catholique, qui lui aussi peut tromper, mais en tous les cas, elle a fait un statement sur son site en disant voilà, tout ce que j'ai pu colporter n'était pas la vérité, et maintenant je passe à la phase suivante, un peu comme vous, quoi. Et c'est un peu la révélation que moi j'ai eue en t'écoutant, et en vous écoutant, pardon, je vous inclus tout le groupe, et je vous remercie, parce que je crois ou pas à la dissolution d'un plan, parce que pour l'instant, bah, je me fais une opinion ce soir en étant là et en posant ces questions, mais peu importe, en tous les cas, ce que j'ai appris de tout ça, et je te remercie énormément Hervé pour ça et pour le dialogue qu'on a eu hors antenne, c'est que du coup, sa souveraineté, on n'a pas à la remettre entre les mains de quelqu'un d'autre, que ce soit un médium, que ce soit un canal, que ce soit même les baguettes de sourcils que j'ai pu utiliser, ou même ce test kinésiologique que j'ai pu utiliser jusqu'ici. Et qu'il n'y a que notre instinct ou notre intuition qui est un peu notre... Et même peut-être que celui-là, il est contrôlé par les implants, hein, ça je ne sais pas, vous le direz. Mais qu'il n'y a que ça, et qu'on remet notre souveraineté finalement à tellement de gens. Quoi. Quand on mange, si on achète un truc dans l'industrie agroalimentaire, on leur remet notre souveraineté sur ce qu'on mange. On le remet aux politiques, on le remet à tellement d'entités finalement. Et qui veulent pas notre bien, quoi. Enfin, l'industrie agroalimentaire, depuis quand elle fait du bien aux gens, quoi. Elle les empoisonne plus qu'autre chose. Les politiques, c'est pareil. Enfin, bref. Et en fait, la seule manière de pas remettre sa souveraineté dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est de prendre sa vie en main, que ce soit spirituellement, et d'arrêter de croire, enfin, de consulter, j'en sais rien, les cartes des tarots anciens ou je ne sais qui. Et ça, tu me l'as fait percevoir ce week-end, donc je te remercie. Et puis d'autres enseignements, je ne me souviens plus, mais bon, voilà ce que je voulais dire. Peut-être que vous voulez réagir.
Alors, moi, juste, j'ai mis le. Pour ceux qui souhaitent découvrir qui est cette personne là dont nous venons de parler, j'ai mis le lien sur le chat Révolution Vibratoire. Donc, elle s'appelle Doreen Virtue. Donc, son site, c'est doreenvirtue.com. Donc, si vous voulez aller voir, effectivement, voilà, c'est intéressant. C'est un chemin de vie qui est intéressant. Elle ne voulait plus jouer les faux prophètes, justement, à travers cette canalisation. Et elle a laissé tomber l'affaire. Et si ses livres sont encore vendus, effectivement, ça ne vient pas d'elle. Même si, par le mécanisme des droits d'auteur, elle touche toujours quelque chose. Ceci étant, elle a bien demandé à ce que tout ceci soit arrêté, mais il y a toujours des filières parallèles ou des libraires qui ont des stocks à écouler, j'en sais rien.
C'est ça.
Et donc, voilà.
Tout à fait. Et elle dit que les éditeurs n'ont pas le droit de remettre sous presse ces livres, mais que certains utiliseraient le livre numérique pour continuer à vendre ces livres, alors qu'elle a dit qu'elle ne voulait plus qu'ils soient vendus. Donc,
c'est quand même assez incroyable.
Des tonnes d'exemplaires, quoi.
C'est quand même assez incroyable, parce que c'est rare quand même d'avoir une personne qui est aussi connue, qui a écrit autant de choses et tout ça, qui dit stop en fait. Je regarderai un peu plus, c'est quand même vachement intéressant, et le virage qu'elle a pris en fait par rapport à ce qu'elle a fait par le passé, je trouve qu'il est hyper intéressant, quoi. Je regarderai un peu plus profondément.
Est-ce que quelqu'un peut-être dans le groupe a lu le livre justement qui dit « Deceive no more », donc j'imagine « Plus jamais trompé » en français, un truc dans le genre. Si quelqu'un l'a lu, moi ça m'intéresserait de voir quel est le fameux message de Jésus et quelle est sa parole qu'elle souhaite maintenant diffuser, et si elle n'est pas tombée dans les griffes du catholicisme. Bon, voilà.
Non.
C'est aussi un écueil, quoi.
Non, comme Hervé, moi c'est pareil, j'ai rien lu d'elle non plus.
Mais peut-être, donc voilà, ben on vous donne la parole, hein, si vous souhaitez. Donc nous sommes 106 personnes sur le salon vocal actuellement. Est-ce qu'une personne la connaît, éventuellement voudrait témoigner? Alors bon, le livre, je ne sais pas, il y a peut-être une faible probabilité que vous l'ayez lu, mais est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce que vous avez un avis sur la question? Voilà, tu m'aides justement à faire mon travail, synchronicité, merci, j'ai pas encore tendu la main pour proposer la parole à nos auditeurs, excusez-moi. Alors bon, en l'occurrence, je ne vois aucune main qui se lève, donc on va continuer, mais voilà. Si tu veux continuer sur tes questions, c'est vrai qu'on a pas mal parlé des implants. J'ai peur un moment qu'on ne parle que de ça, mais je pense qu'on pourrait personnellement je pourrais largement tenir 2 heures sur ce sujet-là. Peut-être qu'un jour on fera une émission dédiée sur le sujet des implants, mais il y a tellement d'autres choses à dire et puis tu as tellement d'autres questions.
J'ai tellement d'autres questions. Alors justement, ces méditations planétaires, alors n'ayant pas, alors ma connexion étant complètement coupée sûrement par ces implants, n'ayant pas l'impression d'avoir une connexion avec là-haut, sauf quand j'utilisais mon test kinésiologique, même mon intuition, j'y prête pas assez attention et je la prends pas assez en compte et ça m'a fait faire beaucoup d'erreurs dans ma vie. Quand j'ai essayé de faire une méditation l'autre jour, d'ailleurs vous disiez c'était drôle que souvent quand on veut faire ces méditations il se passe un truc, et comme par hasard à 11h vendredi j'ai eu un coup de fil que j'avais complètement oublié alors que je voulais faire cette méditation, et là je me suis dit vous avez raison, en fait il y a vraiment des trucs qui se passent comme ça où ils essayent de nous empêcher de faire ces méditations. Comment vous pouvez savoir que ces méditations planétaires que vous faites, que vous organisez activement, marche? Et parce que moi j'ai pas l'impression on dit que la pensée crée, alors moi je m'appelle synchronicité, c'est mon pseudo là spirituel on va dire, parce que j'ai effectivement des synchronicités qui se passent et c'est ma seule preuve à moi que ce que je pense arrive, parce que des fois je vous raconte juste une anecdote, mais une fois je me dis un lundi, tiens ça fait un bail que je suis pas allée au ski, j'aimerais bien aller au ski. Mais je me dis, ça n'arrivera tellement pas que... Et puis je donne des conditions et je me dis, ce serait bien que ce soit tout organisé, que j'ai plus que mon pass de ski, enfin mon forfait de ski à payer, la location des skis et puis la bouffe. Et puis j'enlève cette pensée, enfin j'y pense 30 secondes un lundi, et puis le vendredi, ma soeur m'appelle et me dit... Tu sais, mon mec doit former le gars qui va le remplacer parce qu'il change de boulot et il ne va pas pouvoir partir au ski avec nous. Tu auras juste le forfait de ski, les skis et la bouffe à payer et on part dans 2 semaines. C'est cool pour toi ? Voilà. Ça, c'est typiquement le genre de truc de loi d'attraction et qui... Alors, pardon, ce n'est pas une synchronicité, c'est une loi de l'attraction. Donc, j'ai à la fois ces lois de l'attraction qui... Ça arrive tout le temps dans ma vie. Et des synchronicités aussi en permanence, de voir des signes, de rencontrer des personnes alors que j'ai pensé à les rencontrer. Enfin, ça arrive tout le temps dans ma vie. Donc, pour moi, ce sont les formes tangibles de la spiritualité que j'ai dans ma vie, en plus des communications que je peux avoir avec les baguettes de sourcils ou avec ce test kinésiologique. Mais par contre, quand je fais une méditation, je n'ai pas vraiment l'impression que ça fait quoi que ce soit. Donc, est-ce que vous constatez... leur efficacité, comment vous la constatez?
Alors, moi, il y a un exemple qui m'a vraiment frappé. C'était lorsqu'on a fait, en fait, une méditation mondiale, donc le 5 avril, en fait, c'était à cheval entre le 4 et le 5, suivant les fuseaux horaires, la méditation du 5 avril 2020, où on a carrément explosé ce qu'on appelle la masse critique. Donc, la masse critique, c'est 144 000 personnes à la surface de la planète, chiffre biblique. Bon, ok. On va pas revenir là-dessus et on a fait une vidéo entière sur le sujet de la masse critique. Mais, là, on avait, le 5 avril, on avait explosé la masse critique. Et le 5 avril 2020, c'était aussi au moment, vraiment où en plein début de crise du corona, quoi. Enfin, on a tous été confinés. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la méditation a bien fonctionné, j'en sais rien. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de gens sur la surface de la planète qui ont participé à cette méditation. Alors j'ai demandé à Sidi, mais je ne sais pas si elle va la retrouver, de voir si on pouvait retrouver la courbe en question, parce que le contacté Cobra, il nous a, après la méditation du 5 avril et le fait qu'on ait explosé cette masse critique, il nous a sorti une courbe qui était la courbe de contamination des gens par le coronavirus. Et en fait, la courbe, elle prenait une allure exponentielle. Et puis là, le 5 avril, boum, il y a eu un infléchissement soudain de la courbe, absolument inexpliqué et inexplicable, et qui reste inexpliqué, sauf pour ceux qui croient ou qui voient que finalement, les méditations mondiales servent à quelque chose, parce que justement, c'était une méditation qui était aussi axée sur le fait de stopper le coronavirus. Et on a véritablement, moi j'en suis absolument convaincu, réussi à infléchir la courbe des contaminations justement à travers cette méditation mondiale particulièrement réussie. Voilà. Donc je ne sais pas si Cindy pourra retrouver le lien, c'était pour moi c'était vraiment un des exemples les plus frappants.
Et le corollaire de ça, c'est qu'il faut être 144 000 du coup, ce fameux chiffre biblique, ou ça marche aussi quand on est, parce que du coup, moi je vois vos méditations, vous êtes très très peu nombreux finalement. Donc est-ce que combien il faut être, est-ce qu'il y a une masse critique pour que ça ait vraiment un infléchissement sur le cours du monde? Ça me fait penser à un truc en fait en tantra. Il y a Fleur de Lys qui enfin, moi je ne la connais pas personnellement, mais elle a fait un article dans Nexus très très intéressant où elle appelait des couples tantriques. Elle en voulait 12 en fait, enfin 6 couples, donc 12 personnes. Et elle disait que c'était la masse critique qu'il fallait pour envoyer l'énergie sexuelle et par exemple guérir une île comme Haïti. Que si 6 couples tantriques se réunissaient et envoyaient leur énergie de guérison sur la planète, eh ben, ils pouvaient réussir à enlever de la guerre dans un endroit, etc. etc. Donc, elle essaye de trouver ses couples. Je ne sais pas si elle les a trouvés depuis que j'ai lu cet article, mais en tous les cas, elle avait l'air de dire la même chose que vous, quoi. On peut guérir, on peut avoir vraiment un effet sur le cours du monde, un effet bénéfique.
Comment s'appelle cette personne? Tu peux redonner son nom?
Fleur de Lys. Et l'article sur Nexus, je pourrais te l'envoyer. Je peux l'envoyer dans le groupe, sûrement, j'imagine. D'accord. Si ça intéresse des gens, voilà. S'il y en a qui sont parmi vous des couples tantriques, je sais qu'elle en cherche toujours. Et il y a son email dans l'article de Nexus.
D'accord. Alors, mais finalement, on est dans les mêmes principes. En réalité, on est dans les mêmes principes. C'est-à-dire, c'est quoi ces principes? C'est la capacité que peut avoir une faible quantité d'individus à dégager une énergie lumineuse suffisamment importante pour infléchir justement le destin, je sais pas, d'un pays, d'une localité, du monde, j'en sais rien. Donc, et c'est donc ce chiffre des 144 000 par rapport à la population planétaire, justement, il est suffisant pour pouvoir infléchir la ligne de temps planétaire. Ça correspond en fait à la racine carrée du double de la population mondiale telle qu'on l'avait imaginé qu'il serait au moment où la Bible a été écrite ou a été écrite de façon inspirée. Donc si vous prenez le double de la population mondiale que vous prenez la racine carrée, vous trouvez à peu près 144 000 personnes. Bon, justement, Cindy a mis le lien de l'explication sur YouTube de la masse critique pour ceux que ça intéresse. Et j'imagine très bien qu'avec des couples tantriques, on peut, avec un faible nombre de couples tantriques, on peut aussi dégager une énergie spirituelle suffisamment forte pour aussi infléchir le cours des événements. Donc peut-être pas avec 6 couples sur la surface de la planète, mais en tout cas le destin d'un pays, comme tu le disais tout à l'heure. Donc pour moi, ça rejoint tout à fait ces mêmes principes. Nous, on s'appuie plutôt sur les expériences de Maharishi qui ont eu lieu au Liban, pendant la guerre du Liban dans les années 80, où là il y avait des groupes de méditants suivant les techniques de méditation transcendantale qui avaient été proposées par Maharishi, et on avait observé justement qu'il y avait des effets sur, il y avait moins de conflits, il y avait moins de victimes, il y avait moins d'agressivité lorsque c'est là où ces personnes méditaient en groupe. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a appelé l'effet Maharishi. Donc quelque part, nos méditations mondiales s'appuient sur un principe. Alors évidemment, on va pas trouver ça dans l'encyclopédie Universalis ou je ne sais trop quoi, ou sur Science et Vie, mais nous on s'appuie sur ce principe-là pour expliquer le fait que des méditations de masse collectives, donc synchronisées et focalisées, donc je répète, des méditations synchronisées et focalisées, donc c'est-à-dire donc simultanées et en même temps avec un protocole particulier, donc une intention particulière, on peut avoir un impact très puissant lorsqu'on le fait de façon collective.
Ok. Je viens d'envoyer une partie de l'article, je crois qu'il y a 6 pages de l'article. Je peux envoyer le reste tout à l'heure, mais c'est un peu compliqué en même temps que je suis le truc. Mais voilà, si ça peut éclairer, en tous les cas, vous éclairer sur ce que peut faire le tantra là-dessus, why not?
Très bien, voilà. Très bien. Et Cindy, a posté le lien aussi sur l'inflexion de la courbe après notre méditation mondiale du 4 avril. Génial. Merci Cindy.
Merci Cindy. Alors j'ai d'autres questions et merci déjà pour toutes vos réponses. Alors on parle beaucoup de guerriers de lumière, ou il y a un autre truc de la lumière, je ne sais plus ce qu'on dit aussi. Et ma question, c'est un peu, est-ce qu'on s'intronise? Alors, j'aime pas trop le mot guerrier, hein, parce que moi, j'ai pas envie de faire la guerre, personnellement, c'est une horreur, la guerre, donc voilà. Mais comment vous vous appelez, en fait?
Nous, en fait, on n'aime pas trop les étiquettes comme ça, en fait. On n'aime pas donner des étiquettes aux gens ou se classer entre travailleurs de lumière. Enfin, on considère qu'on est tous égaux, pas de complexe de supériorité ou d'infériorité par rapport aux autres. Il y en a toujours qui considèrent que les guerriers de lumière sont supérieurs aux travailleurs de lumière, mais franchement, nous, pour nous, on n'attache pas beaucoup d'importance à ces étiquettes-là, sincèrement. On se considère tous comme une famille, on est tous dans le même bateau. Mais bon, il y en a qui considéraient que les Light Warriors, donc les guerriers de lumière, c'était plutôt ceux qui avaient accès, on va dire, à des plans plus subtils, des plans énergétiques pour faire des choses hors du plan physique. Mais franchement, sincèrement, mieux vaut pas s'attacher à ces étiquettes-là ou se classifier.
Oui, c'est vrai que
ça. On ne peut pas avoir d'infériorité ou de supériorité entre nous. Ça, c'est un truc de la matrice et de la programmation mentale, y compris des implants.
Ouais, ça voilà. Fait mousser l'ego spirituel, quoi.
Ça nous divise au lieu de nous assembler. Et entre, on va dire, entre éveillés, voilà, on doit être tous unis sans différence, en fait, dans l'unité.
Et alors, justement, moi, par exemple, je suis dans le bateau comme vous, mais je ne me sens pas connectée. C'est pour ça que moi, je ne ressens pas, par exemple, les effets d'une méditation ou de trucs comme ça. Et moi, j'ai toujours l'impression d'être déconnectée de là-haut, en fait. Si je n'ai pas mon test kinésiologique ou ça, ou les baguettes de sourcier, j'ai l'impression d'être complètement déconnectée. Et que, donc, c'est sûrement les implants, peut-être, ou autre chose, peu importe. Mais en tous les cas, je ne sens pas ce truc-là. Donc, finalement... La question, c'est un peu, est-ce qu'on nous intronise travailleurs de lumière, guerriers de lumière, peu importe comment on l'appelle, ou est-ce qu'on s'intronise soi-même, ou à partir du moment où on fait n'importe quelle méditation, on est déjà dans la lumière et on avance vers ça et on fait ce travail.
Alors, il y avait le Cindy, c'est très bien ce que tu as dit, mais il me semble me souvenir d'une distinction qui avait été faite par le contact Ecobra entre travailleurs de lumière et guerriers de lumière. C'est-à-dire que travailleur de lumière, ça va être une personne qui va travailler sur la lumière, en fait, voilà, travailler sur sa spiritualité, essayer, voilà, faire des méditations avancées, mais qui en même temps va pas trop se préoccuper de tout le jeu de l'ombre. Et par contre, le guerrier de lumière, lui, il a une conscience aiguë du jeu de l'ombre et de facto, il peut focaliser ses actions de façon plus focalisée sur sur l'ombre. Par exemple, on sait, nous, on va dire, il y a beaucoup de personnes qui savent qu'à certains moments, justement, planétaires, quand il y a des conjonctions planétaires, quand il y a des solstices, des équinoxes, quand il y a la fête d'Halloween, on sait qu'il y a des sacrifices qui sont faits par l'ombre. Donc, il y a des magiciens noirs qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent derrière le rideau. Le travailleur de lumière, ça, il va pas s'en préoccuper. Lui, il va juste avancer, va suivre son chemin. Par contre, le guerrier de lumière, lui, il sait ça. Et du coup, dans son intention, il va mettre une intention plus forte pour pouvoir juste et se focaliser sur ces moments particuliers planétaires, parce qu'il sait que l'ombre est présente et bien présente. Et il veut montrer que la lumière est aussi bien présente à ces moments pour contrecarrer les actions de l'ombre. Donc voilà, ça peut être une façon, une approche de distinguer, on va dire, le travailleur de lumière et guerrier de lumière, mais encore une fois, c'est des appellations. Alors, moi, je voulais vous raconter une petite anecdote, parce que justement, comme tu m'avais posé cette question un petit peu à l'avance, j'ai réfléchi un petit peu aux réponses. Et en fait, je suis en train de lire un livre sur le soufisme d'Éric Geoffroy, un livre super, super. Donc le soufisme, c'est quoi? C'est la mystique, c'est la mystique musulmane, encore une fois. Donc c'est on a des mystiques chrétiens, mais on a aussi des mystiques dans la religion de Mahomet. Et parce que j'espère justement, je ne désespère pas de faire une émission sur le sujet. Je pense que ça pourrait être très intéressant parce que les guerriers de lumière, on peut les trouver justement chez les soufis, par exemple. Donc le maître soufi, c'est le nec plus ultra, c'est l'espèce de presque saint de la religion chrétienne, si vous voulez. Et alors, donc c'est une parole de soufi, juste pour voilà, par rapport à guerrier de lumière, travailleur de lumière, vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Donc il y avait un maître qui iranien qui s'appelait Karakhani, donc c'était autour de l'an 1000. Il se trouvait un jour dans un hospice avec une quarantaine de derviches. Alors derviches, justement, c'est les gens, vous savez, c'est ceux qui tournent là pour peuvent répéter le nom de Dieu ou pas, enfin où ils tournent sur eux-mêmes pour jusqu'à sentir l'ivresse de Dieu et sentir la connexion au divin. Et en fait, ces derviches dans un hospice, donc ils n'avaient plus rien à manger depuis une semaine. Et puis il y a un inconnu qui frappe à la porte. Et il apporte un sac de farine et un mouton. Vous savez qu'on mange des moutons chez eux. Bon. Donc, j'ai apporté ça pour les soufis, dit-il. Alors, le cheikh, le maître iranien, il déclare que celui qui se prétend soufi accepte. Et que croyez-vous qu'il advint ? Les bouches restèrent closes et l'homme repartit avec sa farine et son mouton. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'anecdote, mais voilà, qui peut prétendre se déclarer soufi, qui peut prétendre finalement se déclarer travailleur de lumière, je ne sais pas. Et au final, agissons comme nous le pouvons, autant que nous le pouvons chacun à notre niveau, et peu importe l'étiquette qu'on se donne. Et c'est vrai que finalement, quand on commence à se donner une étiquette, on dévie un petit peu de la voie, je pense. Donc voilà, c'était juste pour illustrer la chose.
Ok. Alors, il y a tellement de questions, je ne sais plus. Comment éviter de remettre sa souveraineté entre les mains des autres ? Je crois qu'on l'a un petit peu abordé. Et puis surtout, comment faire plus confiance à son intuition ? Et justement, l'intuition. Alors, est-ce que c'est le seul truc qu'on a qui ne nous trompe pas ? Ou est-ce qu'on est trompé partout à cause de ces implants ?
Alors, si on raboute les morceaux avec ce qu'on a dit tout à l'heure, donc les plans qui sont sous contrôle partiel donc des contrôleurs de la matrice, donc c'est le plan physique, le plan éthérique, le plan astral, émotionnel, et une partie du plan mental. Au-dessus du plan mental, qu'est-ce qu'on a ? On a le plan de l'intuition. Le plan de l'intuition, il est au-delà de la dualité. Donc, au-delà de la dualité, les contrôleurs de la matrice ne peuvent plus agir, ne peuvent plus interférer. C'est pour ça d'ailleurs que donc moi je crois par exemple à l'existence de la fraternité de l'étoile, donc en lien justement avec c'est les 144 000, mais bon, peu importe, 144 000 ou plus ou moins, peu importe. Mais il y a eu une guidance qui a été opérée justement à la surface de la planète pour que la lumière puisse avancer ses pions. Souvenez-vous du discours qu'on a eu la dernière fois. Et en fait, sachant que l'ombre essaye sans arrêt de contrecarrer les plans de la lumière et que pour que la lumière puisse avancer ses pions, elle agit justement par impression télépathique. Donc, des impressions télépathiques, c'est ça. C'est-à-dire que, ou des impressions au niveau, en fait, sur des plans qui ne sont pas dans l'atteinte justement de la cabale, des forces sombres. Donc, mais ceci étant, il n'est pas forcément tout à fait évident de savoir sur quel plan on se connecte, quand on se connecte à quelque chose. Et quand on dit son intuition, est-ce que c'est vraiment l'intuition ou est-ce que c'est pas justement une pensée télépathique d'un reptilien qui nous a été poussé pour nous influencer à faire quelque chose ? Parce que les reptiliens sont très, très puissants sur le plan mental. Ils savent nous pousser des fausses pensées à l'intérieur de notre tête. Donc il faut en fait impérativement, et ça c'est en lien avec ton autre question, à qui peut-on faire confiance, il faut absolument développer son discernement vibratoire. C'est-à-dire que lorsqu'on a un ressenti, lorsqu'on a une intuition, de quel plan elle vient ? Est-ce qu'elle vient d'un plan potentiellement qui peut être influencé par un être de la matrice, ou est-ce que c'est vraiment un plan très fin, un plan de fréquence très fin? Et là, je peux avoir confiance, je peux être sûr que c'est la bonne voie que je dois suivre. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à suivre. Mais quoi qu'il en soit, si vous développez votre discernement vibratoire, bah vous êtes sur la bonne voie. Parce que là, justement, vous n'allez plus vous en rapporter à un canal ou à un guide purement humain qui, lui, peut obéir à des injonctions qui viennent des plans subtils de la matrice. Qui souhaitait prendre les paroles ? Oui.
Moi, j'avais lu un livre sur une nana qui était complètement pragmatique, pas du tout dans la spiritualité au début de son chemin, et qui c'est un livre sur l'intuition justement, et puis qui a fait un chemin très très fort sur l'intuition. Elle donnait un exercice que j'ai donné à des potes, mais moi j'ai jamais réussi à le faire, qui est un exercice très simple, qui est de se concentrer sur un truc qu'on adore. Par exemple, je dis n'importe quoi, une glace. Si vous aimez manger des glaces, vous vous concentrez sur votre parfum préféré et puis vous voyez ce que ça fait dans le corps. Et puis allongé dans votre lit le soir avant de vous endormir. Et puis après, vous prenez le truc que vous détestez, je dis n'importe quoi, les choux de Bruxelles par exemple, et puis vous voyez l'effet que ça vous fait dans le corps et vous avez votre oui et votre non. Et moi, même cet exercice-là, j'arrive pas à le faire en fait. C'est mon intuition ne veut pas me donner la réponse de ce que ça me fait dans le corps, ou alors j'arrive pas à capter les signaux subtils du truc, quoi. Donc, je sais pas, peut-être dans le groupe, il y en a qui ont un truc infaillible pour pouvoir percevoir les oui, les non, ce que notre intuition nous dit, comment elle nous parle. Mais moi, je trouve ça très, très difficile, à mon stade, en tous les cas.
Alors, je redonne la parole, du coup. Merci, merci de me donner cette opportunité. Donc, si parmi nos auditeurs, certains souhaitent prendre la parole sur ce sujet, comment êtes-vous sûr, justement, de bien écouter votre intuition et pas une influence extérieure qui ne vous veut pas forcément du bien? Comment être sûr d'écouter votre petite voix? Élie Cadine, elle a écrit un livre aussi sur la petite voix, sur comment apprendre à écouter sa petite voix. Est-ce que Marion, vas-y, tu peux activer ton micro, Marion.
Ouais, bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir, je fais un petit point rapide. Je vous écoute souvent, c'est vrai que j'interviens pas beaucoup parce que bon, vous abordez des notions que je maîtrise pas tout à fait en fait. Donc je suis en apprentissage. Ouais, concernant l'intuition, moi je me retrouve un peu dans ce que disait Cindy, je crois que c'est Cindy qui parlait jusque-là. Ah non, c'est synchronicité. Synchronicité, dans son discours, je me retrouve vachement, par exemple sur les questions de la méditation, tout ça. Souvent, c'est des choses que j'ai beaucoup de mal à faire parce que je trouve que ça remue des choses assez pas très agréables, en fait. Donc, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de passer par la méditation. D'après ce que vous dites, il semblerait que c'est une étape importante. Mais enfin, je suis en questionnement encore à ça. Pour venir sur l'intuition, moi, quand j'ai une intuition, et que par exemple je réfléchis à cette pensée qui me vient, dès que je sens qu'elle est négativée ou qu'elle est alimentée ou qu'elle fait ressurgir des craintes ou des peurs, je sais que c'est pas de la vraie, c'est pas la bonne en fait. Et l'intuition, moi je me fie à une intuition qui est plus on va dire plus spontanée, plus radicale, plus directe. Voilà, quand c'est une intuition qui tourne un peu en boucle et qui emmène plein de questionnements et que du coup par le questionnement ça réanime des craintes ou des peurs, je laisse tomber. Je sais que c'est pas bon. Je sais que je pose ça là et je dis non, ça reviendra. Si ça doit revenir, ça va revenir à un autre moment. Mais là, je prends pas ça. C'est comme ça un petit peu que je gère. Quand j'ai besoin de me fier à mon intuition, bon, par exemple, je suis face à une situation, un événement, il faut que je prenne une décision, il faut que je fasse un choix là, maintenant. Ben voilà, quand je sens que c'est trop lourd, je laisse. Par contre, je sais que la vraie intuition, elle est plus directe, elle est plus joie, elle est plus animée, elle est plus positive, quoi. Voilà, c'est un discours avec soi-même, en fait. Hein. Pour moi, c'est un discours avec soi-même et je sais maintenant reconnaître ce qui est bon pour moi et mauvais pour moi dans ma propre interaction à moi-même, quoi.
Et si on est encore dans le mental vachement comme moi, est-ce que tu dirais qu'il faut se connecter à est-ce que c'est un choix d'amour ou est-ce que c'est un choix de peur ? Et donc aller vers le choix d'amour systématiquement quand il y a un choix à faire, justement.
Ben, moi, c'est ce que j'ai. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental. C'est mon truc, c'est que moi, je réfléchis. Je suis très, très dans le mental. Donc, j'ai pris le choix, mais après, je me trompe, hein, mais je fais l'expérience. J'ai dit, je fais l'expérience maintenant de réagir comme ça par rapport à ces pensées-là qui me viennent. Et je trouve que ça me réussit bien parce que finalement, c'est comme si ça éradiquait, c'est comme si ça balayait plutôt toutes les... comment on appelle ça ? Toutes les distorsions qui peuvent amener dans le mental. Parce que moi, okay. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais...
Si, non, tu es très claire. Travailler avec l'intuition la plus pure, je pense que ça nécessite un travail spirituel sur soi. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'évident. Juste par rapport à ce que, la question que tu as ébauchée tout à l'heure, Marion, est-ce que tu peux faire l'économie de la méditation ? Je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, mais... En toute honnêteté, je pense que tu ne peux pas en faire l'économie. Et étant donné notre situation justement dans cette matrice, je pense qu'on a tous un rideau de feu à passer. Et si la méditation justement fait remonter des choses pas très agréables, bah c'est et pour cause, c'est parce qu'on a tous, on a tous un rideau de feu à passer et on a tous un nettoyage à faire du fait même de ces incarnations au sein de la matrice. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire.
Mais non, justement, moi je pensais, Marion, que ça m'est tout de suite venu la réponse quand tu as évoqué ce problème. Comme tu disais précédemment qu'à chaque fois qu'on veut faire une méditation, il arrive un truc à l'heure dite, on ne s'en souvient pas, ou il y a quelqu'un qui nous appelle, ou on est en train de faire autre chose. Voilà. Moi j'ai l'impression, j'ai quand même été capable de faire deux fois Vipassana, dix jours d'affilée. Mais à chaque fois que je rentrais de Vipassana, je ne mettais pas en pratique la méditation dans ma vie en fait. J'arrivais à faire 5 minutes, 10 minutes. En plus, je suis quelqu'un qui est tout le temps en mouvement. Je ne supporte pas de rester assise 2 secondes. Quoi. Donc, pour moi, c'est super difficile de m'asseoir et de méditer. Et je pense que peut-être, est-ce que ce sont ces implants ? Est-ce que justement, on fait tout dans cette matrice pour nous éloigner de ce travail, en fait ? C'est peut-être, puisque c'est votre supposition, je me dis, peut-être que c'est ça, en fait. On n'y va pas parce que, aussi, c'est un travail qu'on essaye de nous éviter de le faire, quoi, en fait.
Alors, c'est encore une fois, c'est les dangers de parler des implants lorsqu'on n'a pas fait quelques étapes préliminaires. Alors, on a vite fait de mettre tout ça sur le dos des implants. J'ai envie de te dire, synchronicité, te préoccupe pas des implants. C'est un mur vibratoire que l'on rencontre à un certain moment. Après, si tu veux l'essayer, teste-le. Mais c'est pas ça qui va t'empêcher de te connecter à ton intuition. Pour en revenir à son intuition. Alors nous, on avait proposé. C'était fin d'année dernière aussi, je crois. On travaille avec une sophrologue là qui est intervenue pas mal de fois justement pour guider des méditations sur un principe, c'est le centrage, ancrage, protection. Centrage, ancrage, protection. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez une décision un peu particulière à prendre, enfin un peu difficile, ou que vous voulez vous reconnecter avec votre intuition, assurez-vous que déjà que vous êtes bien centré énergétiquement, donc recentrez vos corps. Donc il y a des exercices qui ont été proposés. Assurez-vous que vous êtes bien ancré dans le sol et assurez-vous aussi que vous avez la protection suffisante pour que personne d'autre que votre présence justement spirituelle, votre présence supérieure, ne vienne interférer dans cette réflexion et cette connexion à l'intuition. Et si vous faites ce travail de centrage, ancrage, protection, là, vous êtes à peu près sûr de vous connecter à vous-même, à rien d'autre que vous-même, puisque c'est à ça qu'il faut se connecter, c'est à votre présence supérieure, c'est à votre présence je suis, pour accéder justement à cette intuition. Donc il y a des routines, il y a des petites routines qui doivent être mises en place, et ça, c'en est une. Parce que si vous êtes dans l'agitation du quotidien, si vous avez voilà, vous avez vécu une contrariété, vous êtes un petit peu à côté de vos pompes, vous êtes voilà, eh ben laissez tomber. Votre intuition, elle va être parasitée. Donc il faut faire ce petit travail, cette petite routine, centrage, ancrage, protection, un travail de respiration. On rentre un petit peu à l'intérieur de soi, un travail de respiration, et à ce moment-là, vous pouvez vous assurer que vous vous connectez bien à des fréquences supérieures et non pas à n'importe quoi.
Moi, je rebondis, mais je rebondis là-dessus parce que alors, je ne sais pas si on parle de la même chose, parce que peut-être que souvent, on peut parler de la même chose, sauf qu'on a des manières différentes de l'expérimenter. Et moi, je me rends compte que je suis vachement plus… on parlait tout à l'heure de se sentir connectée. Je considère que notre mental, c'est notre premier ennemi. Alors peut-être que quand je dis notre mental, derrière, il y a les implants, mais peu importe. Notre mental, pour moi, je considère que mon mental est mon premier ennemi. Et que donc la manière que j'ai trouvé de me soulager beaucoup dans ma vie, c'est un mode de vie en général, je dirais. Et qui va à l'encontre même de ce qui est plus ou moins l'autoroute qui nous est plus ou moins tracée. Et moi, je parlerai d'hygiène de vie en réalité, mais quand je parle d'hygiène, je ne parle pas de nourriture forcément, je ne parle pas de choses comme ça, mais je parle plutôt d'une manière de vivre. Et cette manière de vivre que j'essaye d'adopter, j'ai l'impression qu'elle me permet d'être plus connectée à mon intuition. C'est-à-dire, par exemple, vivre le moment, s'attacher à être conscient du moment présent, s'attacher à tous les jours faire quelque chose qui nous plaît, ne pas se forcer à faire des choses, ne pas mettre trop de tension ou d'attention sur des événements emmerdants de la vie. Essayer de s'alléger le plus possible, en fait. Parce que tous ces états émotionnels, etc., que souvent on suralimente en réalité, ça nous parasite complètement et c'est comme ça nous coupe, quoi. Ça nous coupe vraiment de la clarté, de cette intuition dont on parle qui est si précieuse, de la pensée créatrice. Ça nous coupe radicalement de tout ça. Et donc, c'est vrai que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, certains, ils ont des modes de vie qui leur rendent difficile l'accès à tout ça. Mais moi, j'ai choisi aujourd'hui de lâcher prise sur plein de choses. Et je trouve que ça me permet d'avoir un rapport à moi-même, au moins profond, on va dire, plus ancré, d'être plus aligné avec qui je suis et du coup d'entendre davantage peut-être mon intuition et d'être plus dans la joie, parce que je crois que je ne viens pas alimenter le dramaturge dans lequel on est conditionné à vivre, quoi. On est conditionné à craindre, à peur et à dramatiser tout, en réalité. Et je trouve que le mode de vie est très important dans la manière de vivre sa vie intérieure. Je ne parle pas de mental, parce que sa vie intérieure, quoi.
Oui, d'accord. Non, mais tout à fait. Je suis tout à fait en phase avec toi. Le mode de vie est absolument fondamental. C'est une j'appellerais ça un petit peu une étape préalable qui est indispensable. Il y avait Christelle qui souhaitait intervenir aussi depuis pas mal de temps. Christelle, et puis après, on reviendra à synchronicité. Christelle, tu souhaitais intervenir ou...
Oui, bonjour. J'attendais patiemment mon tour. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ce que je viens d'entendre. Je voulais juste intervenir parce que c'est vrai que la reconnexion avec la petite voix, ça me parle beaucoup parce que j'ai vraiment vécu ce truc-là avec plein d'interrogations comme beaucoup. Et je pense que je maîtrise aujourd'hui cette chose-là, donc je peux parler juste de mon expérience. En fait, Pour résumer, je pense que j'ai toujours été plus ou moins, comme beaucoup de gens, intuitive, mais sans en être vraiment consciente. Entre autres, moi, j'ai un métier créatif Et je l'utilisais pour créer ce que j'avais à faire sans vraiment en avoir conscience. Puis bon, en m'éveillant spirituellement, hein, j'ai envie de dire, j'ai donc abordé cette question-là. Et comme tout le monde, la vraie question, c'est de faire le tri entre le mental et la vraie connexion. Et j'ai commencé donc à essayer d'avoir des réponses comme ça en essayant d'écouter cette petite voix qui nous parle et dont on ne prend pas forcément conscience. Je me suis rendu compte que des fois, ça me jouait des tours parce qu'en effet, le travail avec le mental, et je pense que ça va durer encore longtemps, n'est pas facile. Et donc, j'ai travaillé via des méditations justement. Pour essayer de déclencher comme ça les sensations via le corps pour pouvoir comprendre basiquement avec la technique du oui ou non, hein, comme on le ferait avec la radiesthésie avec un pendule. D'ailleurs, j'utilise aussi, j'essaie de travailler le pendule, mais j'ai l'impression de moins bien maîtriser. Et alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment développé une technique qui me permet de alors, c'est la base de la base, de travailler ce oui ou non. Et donc, le truc, c'est de réussir à choper ce qui se déclenche dans le corps avec un code, avec le oui et le non. Souvent, le non, ça ne répond pas, mais le oui, il y a quelque chose qui se déclenche. Alors, pour moi, c'est vraiment une expansion au niveau du cœur. Mais certains, ça peut être le petit doigt qui bouge, ça peut être… Enfin, j'imagine qu'il y a plein de manières de réagir. Et quand on a ce truc-là, je peux vous dire que c'est la base et c'est super parce que moi… Le plus dur après, c'est vraiment de penser à poser des questions. Mais moi, je l'expérimente maintenant depuis presque 2 ans. Et c'est incroyable, quoi. Ça marche à tous les coups. Donc voilà, bon, là, je voulais parler de cette expérience-là qui peut-être pourrait être utile à d'autres personnes.
Super, ben merci beaucoup Christelle. Merci bien, c'est très intéressant. Sandrine, tu voulais apporter éventuellement un complément. Sandrine, c'est notre veilleuse des énergies là, qui anime les méditons ensemble. Tu disais tout à l'heure synchronicité qu'on n'était pas nombreux, mais tu faisais sans doute référence au groupe Méditons ensemble. Mais là, c'est normal, hein, une espèce de GIGN de la lumière. Pardonnez-moi pour la comparaison. C'est un petit groupe qui se réunit plusieurs fois par jour en fait pour faire des méditations ciblées. Et c'est normal qu'elles soient pas nombreuses. Mais en tout cas, voilà, Sandrine, elle anime ce groupe-là. Et tu as peut-être un complément à faire sur cette notion de comment bien suivre son intuition. Chacun a ses petites recettes. Hein. Après, voilà, nous, on vous donne de la matière à penser, même si tout ne se gère pas au niveau de la pensée, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais Sandrine, tu veux compléter ou pas ?
Bien, on va dire que pour moi, l'intuition, enfin, moi, comment je l'expérimente, on va dire, l'intuition, chez moi, elle va être spontanée. Et elle va me diriger directement sur, ou alors si j'essaye de réfléchir, je me dis, ah tiens, j'aurais dû suivre mon intuition finalement, parce que je ne l'ai pas écoutée à un instant précis, on va dire, et je suis repartie dans mon mental, et en fin de compte, j'ai dit, ah, j'aurais dû suivre mon intuition, ça m'aurait peut-être évité peut-être telle ou telle aventure, on va dire. Donc après, l'intuition, on va dire que voilà, s'il y a trop de mental, on peut s'en servir du mental, mais pas trop. On va dire que l'intuition, moi, je la suis directement. Mais ça, c'est moi, hein, spécifiquement. Après, chacun suit son intuition et s'accorde aussi souvent avec les synchronicités, justement. C'est l'univers qui valide l'intuition, on va dire. Voilà, pour moi, ce que je peux en dire, en tout cas.
Ok, ben voilà. Effectivement, on pourrait faire aussi une émission complète sur l'intuition, hein, c'est pareil. Je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire. Bon, alors du coup, on va revenir à synchronicité. Il nous reste encore quelques minutes, peut-être. Donc, on a fait un petit tour d'horizon sur cet aspect de l'intuition. Est-ce que tu avais d'autres points que tu souhaitais aborder ce soir, justement ? Allez, on se donne encore un petit quart d'heure.
Écoute, franchement, on a abordé tellement de trucs déjà. Tu as répondu, vous avez répondu hein, dans votre ensemble à beaucoup de mes questions. Bon, j'en avais encore quelques-unes. Donc, j'ai appris l'existence de la grille Cintamani grâce à vous et de la colonne bouddhique. Mais alors, la grille Cintamani, donc, j'ai fait la méditation l'autre jour, voilà, et je me demandais si on pouvait la sentir. On peut sentir cette grille.
En fait, les pierres Sintamani tachyonisées sont sans doute des objets physiques à la surface de la planète qui portent en eux la plus haute fréquence qui soit. Et en termes d'énergie spirituelle, en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les utilise, qu'on les enterre pour créer une grille de lumière, pour pouvoir préparer ce qu'on appelle la percée par compression de la lumière. Puisqu'encore une fois, dans notre vision, on est dans une planète prison. Donc les murs qui nous entourent, c'est un voile, une espèce de voile électromagnétique, de la matière modifiée, la matière noire modifiée, on va dire ça comme ça. Et ce qu'il faut, c'est qu'envoyer justement une bonne dose de lumière pour faire éclater tout ça, et que cette lumière soit canalisée, guidée, orientée, catalysée par ces pierres Sintamani qui sont enterrées un peu partout à la surface de la planète. Donc, après, on peut sentir plein de choses par rapport aux pierres Sintamani. On peut sentir plein de choses, mais sentir la grille à proprement parler, je pense que ça doit être possible, mais ça doit demander pas mal de travail.
On peut voir l'exemple de cet été quand on a vu que juillet était très compliqué pour tout le monde énergétiquement. C'est vrai que dans la mise à jour de Cobra du mois d'août, il exprimait que la grille s'était effondrée de 40%. Vu le mois énergétique juillet et août qu'on a tous vécu, et c'est vrai qu'on parle à tout le monde, tous les gens ont eu un été assez terrible, en fait, c'était assez dur, et qu'on sait que la grille était écoulée de 40%, c'est là qu'on peut se rendre compte, effectivement, en fait, on est hypersensible quelque part à cette grille-là, et on est tous reliés à elle. Enfin, moi, je trouve que pour répondre à ça, c'était vraiment l'exemple de cet été. Ça m'a vraiment montré en fait le lien et l'ambiance générale en fait qu'on avait avec cette grille quand même.
En fait, on ne répond pas à la même question. On n'a pas répondu. Moi et Gwen, on n'a pas répondu à la même question. Moi, je répondais à la question, est-ce qu'on peut sentir la grille des pierres Sintamani? Gwen a répondu à la question, est-ce qu'on peut sentir la grille des énergies planétaires? C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la grille des pierres Sintamani, c'est une grille qui est mise en place sur un plan de fréquence très très élevé pour préparer justement cette grosse poussée de la lumière avec l'événement. Après, sentir les énergies planétaires, bah oui, bien sûr, on peut les sentir. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Gwen, c'est que en fait, même dans notre travail de méditation au quotidien, on se rend compte qu'elles changent tout le temps et ça influence énormément la qualité de notre connexion. J'avais fait un article aussi à ce sujet-là parce qu'il y avait des prédictions qui avaient été faites par rapport à Chico Javier. Et bon, moi, bref, j'en avais fait un article un peu ironisant sur le sujet. Mais ça c'est oui, effectivement, quand on a l'habitude de se connecter, justement, de faire ce travail de méditation sous la forme de routine, eh ben, on sent que d'un jour sur l'autre, les énergies sont complètement différentes. Et des fois, les énergies sont complètement bloquées. Et des fois, la lumière, elle descend à flot sans avoir besoin de trop se fatiguer en termes de visualisation. Donc voilà, donc la grille, on va dire, d'énergie de la planète, bien sûr qu'on peut la ressentir. Mais et ce qui est intéressant, justement, c'est de travailler avec ça. C'est-à-dire que quand vous sentez que ça coule bien, bah allez-y, quoi. Vous ouvrez les canaux au maximum pour pouvoir bien faire travailler travailler dans le nettoyage justement des énergies sombres. Et puis à l'inverse, quand vous sentez que c'est un petit peu bloqué, eh ben vous vous focalisez plus justement sur arriver à faire pénétrer certaines fréquences qui vont permettre de débloquer la situation. Et c'est ce qui fait que le Contact Ecobra publie régulièrement des codes absolument incompréhensibles où il parle d'histoires de GR, c'est des grilles de ratios, en fait, des ratios de grilles, pour dire que des fois, on est l'ombre gagne du terrain et du coup on perd en ratio de grille, et des fois c'est la lumière qui gagne du terrain et là on regagne en ratio de grille. Et ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait sentir, effectivement.
Alors, tu parles de Cobra. Alors moi, la première fois que j'ai entendu son nom, je me suis dit, mais il parle du dessin animé qu'on avait dans les années 80 avec ce fameux Cobra blond qui a un bras en forme de je sais pas quoi. Donc j'étais là, mais de quoi il parle? Ou alors il parle d'un serpent, je ne sais rien. Et c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à comprendre qui était le personnage, etc. D'ailleurs, je ne suis pas sûre d'avoir une compréhension bien parfaite de qui il est. Mais qu'est-ce qui t'a, enfin, comment vous êtes arrivés là tous sur ce chemin de Cobra? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ça et qu'est-ce qui a été votre chemin d'éveil à vous? Moi, ça m'intéresserait de savoir par rapport à tout ça, comment vous êtes arrivé à ces conclusions-là.
Gwen, Cindy?
En fait, c'est tout un parcours de vie dans le sens où de mes avancées. Bon, moi, j'ai une vie assez particulière parce que j'ai pas une vie de routine. J'ai pas mal de fait de choses alternatives. Ma vie a été alternative même pendant jusqu'à maintenant. J'ai commencé à entendre parler des reptiliens, de ce contrôle émotionnel et tout ça qu'ils avaient sur nous dans les années 2006 à peu près. Avec David Icke, à l'époque, qui avait écrit un livre. Bon, moi, ça a été mes premières références par rapport à tout ça. Et puis après, voilà, j'ai continué à cheminer. Et puis un jour, j'ai tout simplement eu accès à Internet. C'est ridicule, mais c'est comme ça que j'ai connu Cobra, en fait, en 2016. Donc, c'était assez tard, parce qu'avant, je pouvais pas. Enfin, j'avais une vie particulière. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à découvrir Cobra comme ça via Internet, tout simplement, ça m'a apporté des nouvelles pièces de puzzle. Bon, à l'époque, quand je lisais ça, j'étais ouais, super intéressant. Puis à un moment donné, ça me faisait une espèce de dissonance énergétique, cognitive et tout ça. J'étais là, non, mais attendez, stop, là, j'arrête. Et puis, je digérais, j'y revenais. Et voilà, c'est un peu, ça m'a apporté des nouvelles pièces de puzzle, en tout cas, dans ma compréhension. Et au fur et à mesure, je trouve que c'est la personne qui est la plus cohérente et qui est la plus cohérente dans ce qu'elle dit et que ce que j'ai découvert avec lui est vraiment solide, en fait, je trouve, quoi.
Alors, on a fait une émission Radio Pléiade sur le sujet de qui est le contacté et contesté Cobra. Donc, si ça vous intéresse, on vous renvoie à cette émission. On parle en long, en large, en travers de ce personnage. Et puis il y a aussi un article intéressant, là, c'est écrit là cette fois-ci, sur le site de Jonathan, Exoportail, qui est Cobra. Et en général, sur tous les articles de Cobra, en général, ils commencent par mettre ce lien pour que les gens comprennent de qui on parle. Mais ça n'a rien à voir effectivement avec le personnage de dessin animé qu'on a pu connaître. Je ne sais pas, Sandrine ou Cindy, est-ce que vous souhaitiez apporter une pierre à l'édifice pour répondre à la question de synchronicité?
Ça peut faire l'objet d'une émission aussi, hein, où vous racontez quel est votre chemin. Ça peut être intéressant pour les gens de voir votre cheminement. Et voilà, pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, Cindy.
Bah, moi, tout comme je l'avais dit, quand on faisait les tables rondes du Nouveau Monde, tout le monde adore les Atlantes et l'Atlantide, les Muris et compagnie, bon, alors qu'on est bien dans les implants à cause d'eux. Et Cobra est le seul, je dis bien le seul à parler de l'Hyperborée, qui est la plus ancienne des civilisations, la première civilisation qui est arrivée sur Terre. Enfin, l'Hyperborée, c'est un ensemble de civilisations extraplanétaires qui ont semencé la vie sur la planète Terre lorsqu'elle n'était pas encore dans la densité de la matière. C'était un peu plus éthérique et multidimensionnel. Et Cobra est le seul à avoir fait mention de cela. Voilà, contrairement à tous les autres, qui ne font que des copier-coller. Et depuis plusieurs années, on peut constater la véracité, la crédibilité et la fiabilité des informations du contacté Cobra aussi. Donc, c'est vrai que ça pourrait faire l'objet de toute une émission de parler, en fait, de nos vies, de notre éveil, etc., etc.
Tout à fait. Mmh. Alors, ouais, bah, justement, ça me rapproche de ma dernière question. Je pense qu'on va clôturer avec ça. Dans l'une de vos vidéos, à un moment donné, vous parliez qu'en décembre 2014, qui est pile le moment où je dis toujours, c'est le 1er décembre 2014 que j'ai eu mon épiphanie, il y a eu un événement cosmique. Alors, je crois qu'il est envoyé dans le chat de mes potes résistants. Je vais essayer de vous retrouver ça. Vous disiez, oui, ça parlait de la déesse ou de je ne sais plus trop quoi. Ah oui, l'ouverture du portail d'Isis en décembre 2014. Et je me suis dit, putain, c'est bizarre, vous parlez de ça, mais ça correspond pile poil à quand moi je me suis ouverte à la spiritualité, à réouverte en tous les cas à la spiritualité. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Alors, bah, bon, alors, c'est... Comment dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, il y a des reconnexions. En fait, la planète a fait des reconnexions. On va dire, il y a eu différentes étapes. Il y a eu 2012. Il y a eu effectivement ce portail. Il y en a eu d'autres après. En fait, c'est un petit peu justement comme le développement personnel. C'est-à-dire que bah, nous aussi, on fait des reconnexions. Et alors, le portail, c'est Isis, c'était moi j'étais, c'était pas une époque où c'était une époque où je m'étais refermé avant de me réouvrir. Je me souviens avoir lu cet article, mais je ne m'en souviens pas dans les détails suffisamment pour pouvoir en parler. Je sais pas, Cindy, si toi tu t'en souviens suffisamment. Mais voilà, c'est pour moi, c'est juste une étape en fait. Hein, c'est une étape. Est-ce que quelqu'un a posté le lien peut-être sur le chat? Mais bon, ça, c'est en lien avec tout ce qu'on dit. Hein, il appelait ça portail ISIS, mais bon, c'est Isis, c'est la résurgence des énergies de la déesse à la surface de la planète. Hein. On sait, voilà, c'est les énergies féminines ont été sévèrement réprimées à la surface de la planète pour imposer un système violent, notamment. Et ces énergies se reviennent, c'est le retour de la déesse, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc qui peut sembler un petit peu sectaire et purement cobra, mais en fait, pas du tout. C'est des choses qu'on retrouve aussi dans les traditions anciennes. On parlait de la grande vague galactique de lumière la dernière fois, c'est une vague galactique Ying, très féminine, justement, qui va frapper la planète là qu'on attend avec l'événement. Ben voilà, tout ça est intimement lié, mais faudrait que je me replonge dans l'article de 2014 pour pouvoir. Voilà, on reparlait.
Ouais, si tu es là, moi, ça m'intéresserait parce que je ne sais pas si avec ces ouvertures de portail, il y a justement des êtres qui s'éveillent à chaque fois. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est concomitant avec mon éveil. Donc, ça m'intéresse de creuser le sujet et de voir si cet événement-là a pu faire en sorte que moi, je m'éveille en tous les cas.
Bon, en tout cas, ces notions d'ouverture de portail, c'est vrai que ça c'est pareil, hein, c'est un peu un sujet tarte à la crème. Tout le monde parle d'ouverture de portail. Il y a des portails qui s'ouvrent partout. Il y en a qui ils vont se balader dans la nature et ils ouvrent des portails. Bon, en fait, ça fait référence à quoi? Justement, c'est intéressant. Quand quelqu'un vous dit, parle d'ouverture de portail, bah, demandez-lui de quoi vous parlez exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour moi, la notion d'ouverture de portail, en fait, c'est le fait d'ouvrir une fréquence nouvelle. C'est-à-dire qu'il y avait une fréquence qui ne touchait pas la planète Terre, qui ne pouvait pas la toucher du fait, par exemple, de l'épaisseur du voile, mais qui, suite au travail qui a été fait à la surface de la planète, justement, il y a une nouvelle fréquence une fréquence de lumière qui peut atteindre la planète et donc contribuer à sa transformation. En fait, c'est ça, cette notion de portail. Donc après, bon, je suis sûr que d'autres personnes pourraient expliquer ça de façon différente ou pas l'expliquer du tout d'ailleurs. Mais voilà, on parle un petit peu à tort et à travers d'ouverture de portail en permanence. Mais à partir du moment où vous faites un saut quantique sur spirituellement, que vous faites des prises de conscience, ben, les gens ils disent que c'est une ouverture de portail. Bon, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Ben. Tu me permets un mot de conclusion?
Ah ben vas-y.
Je voulais vous remercier tous les gens qui sont intervenus ce soir, Hervé au premier chef. Oui, voilà, alors tu m'as permis, tu m'as donné deux leçons spirituelles très très fortes ce week-end. La première, c'est effectivement de ne pas remettre mon pouvoir et ma... j'arrive pas à retrouver le mot, je suis fatiguée là. Et ma souveraineté, voilà, dans les mains de quelqu'un d'autre. Et la deuxième, c'est je connaissais pas du tout le codex galactique. Et grâce à toutes vos émissions, etc., j'ai pu apprendre que finalement, toutes les idées New Age, justement, que j'avais pu véhiculer avant, comme qu'on méritait, qu'on s'attirait des trucs mauvais, que ça nous aidait à avancer dans nos vies, etc. Tu l'as balayé en deux secondes. Et en fait, je me suis dit, mais comment j'ai pu croire ça pendant 7 ans? Est-ce que toute la spiritualité que j'ai vécue pendant 7 ans était justement erronée, en fait? Je sais toujours pas si je crois aux implants ou pas. Je vais tester cette méditation mercredi soir. Je vais voir pour moi-même ce que j'en pense, est-ce que mon intuition me dit dessus. Mais en tous les cas, je dois vous créditer dans votre ensemble de ces deux éveils-là, et c'est pas rien. Et donc, voilà, je voulais vous remercier, et merci pour toutes ces questions auxquelles vous avez répondu, et pour tout le travail que vous effectuez. Franchement, c'est incroyable. Merci pour toute cette soirée.
Ok, bah super, bah merci à toi, merci beaucoup. Justement, bah j'espère que le but aura été atteint de profiter de tes questions et des réponses qui en découlent. Et puis, même si vous n'aimez pas les réponses ou que les questions ne vous parlent pas, peut-être que ça fera quand même un cheminement quelque part, intellectuel ou pas d'ailleurs, ou intuitif, j'en sais rien. Alors, il y a des petites questions qui sont arrivées entre temps. On va peut-être y répondre rapidement. Donc, il y a une question de Nicolas. Pourquoi les pierres Sintamani sont aussi chères? N'y aurait-il pas un business avec les pierres tachyonisées et d'autres objets tachyonisés? Alors oui, bien sûr, il y a un business avec les pierres tachyonisées et objets tachyonisés. Bon, la spiritualité, malheureusement, il y a un business un peu partout. Et c'est pour ça qu'il faut faire fonctionner son discernement. Ceci étant, donc une pierre Sintamani, ça vaut à peu près 10 euros le gramme. Donc je ne sais pas si c'est moins cher ou plus que le hashish, j'en sais rien, j'en ai jamais acheté. Mais c'est en tout cas c'est moins cher que certaines pierres qui ne sont pas tachyonisées d'ailleurs. Certaines pierres non tachyonisées coûtent beaucoup plus cher que 10 euros le gramme. Ceci étant, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir une pierre Sintamani, eh ben figurez-vous que ça tombe bien parce qu'il y a une opération actuellement qui consiste à donner des pierres Sintamani à ceux qui en font la demande et qui n'ont pas les moyens de s'en acheter une. On en a parlé dans la dernière mise à jour de situation planétaire du contact Ecobra. Donc pour l'Europe, on a un contact qui est en Hongrie, donc il faut vous manifester auprès de ce contact et des pierres seront distribuées moyennant le paiement du port. Vous devez payer le port pour pouvoir recevoir cette pierre Sintamani. Voilà, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y avait une autre d'autres questions, Cindy? J'ai peut-être pas forcément.
Après, par rapport au prix des pierres tachyonisées, des produits, tout ça, je pense qu'il faut aussi prendre en conscience qu'on n'a absolument aucune idée de tous les projets qu'ils font en fait. Je parle de l'équipe de Cobra et tout ça sur la planète. Et du coup, qui dit projet sur la planète dans une matrice, il y a beaucoup d'argent qui sont en jeu également. Mais en tout cas, voilà, l'argent permet vraiment de participer à des actions pour la libération de la planétaire et à des actions certainement pour post-événement et tout ça. Donc voilà, on n'a pas toutes les cartes en main pour la compréhension de tout ça par rapport au prix qu'ils font. Et je pense que c'est bien de le dire également. Ouais.
Mais justement, le fait de pouvoir distribuer gratuitement des pierres Sintamani à des travailleurs de lumière qui n'ont pas les moyens de s'en offrir, c'est possible justement parce qu'il y a eu un business derrière. Voilà, parce que malgré tout, ces pierres, il y a des personnes qui sont allées les chercher dans le désert. Elles ont pris des colis fort chers par avion. Et puis, il a fallu les tachyoniser, puis il a fallu les distribuer, etc. Donc voilà, ça a un coût. Donc voilà, mais comme tu le dis, il y a des projets de lumière qui sont réalisés derrière le rideau et ça permet, cet argent sert en partie à financer ces projets de lumière. Ouais, c'est bien de le dire, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a une Alice qui pose une question également. Possible d'avoir les références, ah oui, des livres sur le soufisme et la petite voix. Alors, le bouquin sur le soufisme, moi, que je trouve absolument génial, que je suis en train de lire, c'est d'Éric Geoffroy, Geoffroy. Et voilà, c'est un petit clin d'œil à Fousia qui me l'a fait découvrir. J'espère pouvoir faire une émission sur le sujet. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, j'ai même trouvé des éléments pour pouvoir, Cindy, si tu es d'accord, sur la prochaine séance des implants en français, je viendrai faire un petit tour pour vous apporter un élément qui explique justement pourquoi on fait l'exercice du « je suis Dieu, je ne suis pas Dieu » pour la dissolution des implants. Les soufis y avaient pensé à l'époque. C'est expliqué d'une façon un petit peu cryptique dans le livre. Et sur la petite voix, moi c'était le livre d'Elie Kadine, je crois, que j'avais lu. Je sais plus exactement comment ça s'écrit. Elie, E-L-I-E, Kadi, peut-être, C-A-D-D-I-E, je crois. Mais après, il y en a sans doute plein d'autres. Voilà. Mais en cette fin des temps, c'est bien de lire des livres, bien sûr. Mais rester connecté, c'est super important parce que les informations circulent beaucoup plus vite sur Internet qu'à travers l'édition et les livres. Et voilà. Et est-ce que... Donc, bah, ouais, je pense qu'on va, on va mettre un terme à cette émission. Gwen, Sandrine, Cindy, un petit mot de la fin également ?
Alors, ben, merci à tous. En tout cas, c'était un bon moment avec vous. En tout cas, par rapport à tout ce dont on a échangé, c'est vrai que c'est pas forcément facile, même pour nous, en fait. Il y a plein de questionnements. Il y a plein de fois, pareil, on doute aussi de ce qu'on peut ressentir, pas de ce qu'on veut pour ressentir, mais en tout cas sur ce qu'on ressent, les intuitions, tout ça. En tout cas, moi, je dirais pour ma part que voilà, on est un peu tous pareils dans le sens où on continue en fait à chercher, à creuser et à comprendre tout ça, et on est très loin d'être arrivé au bout de toute façon. Mais en tout cas, voilà, très très belle soirée.
Ok, et super.
J'ai renvoyé les quatre dernières pages de l'article sur le tantra, si ça en intéresse, où il y a justement l'adresse email de Fleur de Lys, où vous pouvez lui écrire si vous êtes un couple tantrique pour amener je sais pas, de la guérison dans ce monde, dans tous les cas. Voilà.
Très bien, merci. Sandrine, un petit mot de la fin ou ?
Oui, donc, eh bien, merci à tous. Et puis, que j'ai envie de dire, suivez votre petite boussole intérieure et faites grandir votre petit soleil. Ce sera déjà énorme. Merci à tous.
Et puis, rejoignez le groupe Méditons Ensemble pour la Libération Planétaire, le groupe Telegram, justement, où on organise quotidiennement des méditations ciblées pour des opérations de lumière ciblées. C'est vrai qu'on n'est pas très, très nombreux, mais si on était plus nombreux, on aurait sans doute plus d'impact. Et merci à toi pour justement d'animer ce groupe avec Florence également. Vous faites un travail extraordinaire. Et voilà. Et Cindy, peut-être ?
Oui, ben merci à tous d'assister régulièrement à nos émissions. Et merci aussi, bienvenue aux nouveaux. On a toujours des nouveaux, même pendant les sessions d'implants, chaque semaine en français et en anglais. Donc la prochaine saison dissolution des implants, c'est mercredi en anglais, sinon on vous retrouve en français la semaine prochaine en compagnie d'Hervé. On sera très heureux de te retrouver, Hervé.
Je ferai un petit passage pour ça, je pense. Enfin, voilà, je ne dis pas que bon, je serai là tout le temps, mais alors, quoi qu'il en soit, justement, par rapport aux pierres, Sintamani, donc je répète ma petite annonce. Donc, je recherche une personne pour le parc national des Écrins, la vallée de la Maurienne, éventuellement des pays étrangers, donc Afrique ou Europe, et l'île de Jersey. Donc voilà, si vous pouvez éventuellement aller enterrer des pierres et participer à ce projet fou qui fera un jour l'objet d'un reportage inédit que les Galactiques sont en train de filmer. Et ben voilà, vous êtes les bienvenus. Et merci à tous pour cette émission. Merci beaucoup à toi, Synchronicité. Et puis voilà. Et puis on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles aventures. Et je coupe de ce pas l'enregistrement. Et pour ceux qui souhaitent, on a un petit after qui continue si vous souhaitez discuter un petit peu en dehors de la séquence enregistrée. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci. Alors, moi, j'ai quand même une question.